On en jase. Ton émission du midi, les midi une présentement. On va avoir plein de nouvelles à vous jaser encore une fois. Hé! Hey. Pablo. On en parle depuis 3 semaines. T'as dit?
Même pas, en plus.
L'homme le plus populaire.
On a l'impression que ça fait 3 semaines, mais
ça fait même pas 3 semaines.
Ça fait même pas encore 3 semaines. C'est juste que, vu qu'on en parle 24 heures sur 24 et fin de semaine incluse, ça vaut dans double, je pense.
Pauvre Pablo Rodriguez. Santanine Iacarini, ça va bien?
Oui, vous autres?
Oui, ça va super bien. Pascal CV, comment ça va?
Ça va très bien.
Excellent. On a notre chum Mathias Turcotte qui est présentement au point de presse de Bruno Marchand concernant le budget de la ville de Québec. Alors, il va nous revenir aux alentours de 12h30 avec plus de développement. Mais sans surprise, on a annoncé taxe commerciale hausse à 1,4%, taxe résidentielle à 1,9%. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis les fusions municipales, on arrive enfin à fusionner le taux de taxation. Donc, que tu habites à Charlebourg, à Cap-Rouge ou au Lac-Saint-Charles, tu payes le même taux de taxe. Alors ça va être intéressant. Comme ça, on va arrêter d'entendre des gens de Beauport dire « Ouais, mais ouais, ça a augmenté de 28%! » Ce qui était vrai en passant, puis il y avait raison de se plaindre. Là. Mais là, enfin, on a réussi à harmoniser ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a bien des gens qui s'ennuient de leur ancienne ville, là, de Beauport et Charlebourg, mais oh my God, vous aviez pas travaillé tuyau, M. Langlois et M. Mercier. A fallu faire du rattrapage quand on vous a fusionné. C'est
puis
ça qui est arrivé.
Ça coûte cher. C'est ça que tu faisais comme signe?
Non, je me suis gratté la main. Que ça n'avait pas rapport.
Parce que le signe était très approprié au propos parce que ce que je voyais, c'est comme quand tu
lances l'argent.
Des liasses d'argent sur des gens, mais dans divers contextes. Mais cette fois-ci, c'était pour des tuyaux.
Donc...
Écoute, mais il y a du monde qui ont trouvé ça fort agréable. Par contre, quand on parle au niveau du RTC et tout ça, tu sais, le Boischatel, qui est toujours pas fusionné et qui a décidé d'être le petit Gaulois du transport en commun avec plus mobile, ça fonctionne, mesdames et messieurs. Je pense que ça pourra faire jaser. Mais de les voir rassemblés comme ça, de se jaser. Mm-hmm. Et je me souviens que Bruno Marchand voulait bien avoir des discussions avec Stephen Blainey. Il savait pas que ça allait être Stephen Blainey à ce moment-là, mais son acolyte au niveau de Lévis. Moi, je trouve qu'enfin, c'est rafraîchissant. Mm-hmm. Puis un maire comme M. Junot, qui est très apprécié dans Saint-Augustin et tout ça,
exactement,
va peut-être faire changer la donne sur les communications, la manière de faire avancer des dossiers à suivre.
Si vous voulez entendre le maire Junot, justement, qui a été exclu de la CMQ hier, donc il a été en entrevue avec nous dans Marceau le matin, 8h45. Ça se retrouve sur blvd.fm.
Et ce soir, dans l'émission de Gravel, 16h15, Bruno Marchand sera là.
Exactement. Donc, rendez-vous à ne pas manquer sans l'ombre d'un doute. On amorce immédiatement le caucus parce qu'on a plein de choses à jaser en termes de politique provinciale.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iacarini.
Tabarnouche, t'es-tu en train de me reprendre parce que j'ai dit que je serais peut-être un souverainiste?
Exact. Si t'es souverainiste, je veux juste te dire, c'est dans notre secte, il y a toutes sortes de
coutumes.
Et on
la secte des souverainistes?
La secte des souverainistes. Et on essaie de dire le moins possible le mot province.
OK. Donc
parce
là...
que province, c'est pour les vaincus.
Okay,
l'origine
parfait.
Du mot. Alors, on dit Québec pour tout, on dit nation. Donc, on ne dit pas politique provinciale, on dit politique québécoise.
Alors,
et là, vous riez, mais dans les communications gouvernementales, vous allez remarquer, le gouvernement du Québec, peu importe le parti, c'est assez rare qu'ils disent provincial.
Alors,
vous allez remarquer maintenant.
Nous allons parler, mesdames et messieurs, de notre nation.
Ah, voilà!
La politique de notre nation qui fait en sorte que ce matin, on se réveille. Et là, depuis 11h30 aujourd'hui, je suis tout heureux parce que on m'a dit, Jean-François, tes rêves de voir l'État diminuer, tes rêves de voir le budget devenir moins contraignant avec une moins grosse dette se réalise parce qu'on va couper 5000 employés. France-Hélène Duranceau a annoncé ça.
Jean-François, c'est pas juste ça, là, l'annonce d'aujourd'hui. Là. Parce que c'est vrai qu'on pense pas révolutionner le monde avec une coupure de 5000 postes dans la fonction publique.
Ouais, mais là, la CAQ, François Legault est sorti, puis là, il m'a dit au mois de septembre, je vais m'attaquer à la bureaucratie.
Ouais.
C'est ça qu'il a fait, là?
Il a dit ça. Puis après ça, dans le discours d'ouverture, il nous a dit ça. Puis là, à matin, François-Hélène Duranceau, président du Conseil du Trésor, donc responsable de l'administration gouvernementale, est sorti aussi pour nous dire comment on va faire ça, on va couper dans la bureaucratie. Mais je sais toujours pas quoi. Comme, sérieusement, ça fait des mois qu'on nous dit on va couper dans la bureaucratie.
OK.
OK, un quoi? Qu'est-ce qui va être coupé?
Oui, c'est ça, mais là, François-Hélène ne nous l'a pas dit.
Non, parce que ce matin, l'annonce de la présidente du Conseil du Trésor, c'était de donner 5 grands axes, je t'ai nommé pas tous, là, pour alléger l'État. Okay? Donc, oui, on coupe 5 000 postes, gel d'embauche à l'externe. Donc, tu ne peux plus embaucher. Si tu as besoin de quelqu'un, il faut que tu le trouves à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Ça tombe bien parce qu'on coupe des postes. Fait
que... C'est ça. Fait que
bon, on replace le monde. Gèle à l'interne aussi. Si ton ministère, là, toi, là, tu es sous-ministre, je sais pas, des transports. Puis là, tu n'atteins pas les objectifs de coupure de postes. Tu n'atteins pas les objectifs de contrôle des dépenses. Ben, tu n'as même pas le droit d'aller recruter dans un autre ministère.
OK, parfait. Est-ce que, j'ai une question pour toi, est-ce que les sous-ministres sont des médecins?
Non.
Bon, on va pouvoir leur mettre des objectifs. Parfait. Yeah, good.
Exact.
Yes, bravo.
Bien joué. D'ailleurs, par
j'ai
contre,
eu peur
tu me fais
à
penser.
Donné.
Oui, parce que c'est vrai, on peut pas. Par contre, tu me fais penser que santé et éducation sont protégés contre ce genre de mesures-là. Donc, ça ne touche pas santé et éducation, c'est le ministère.
Oui, ce qui est correct, là, toi, c'est très, très, très logique. Là. Ça tiendra, je ne déchirerai pas ma chemise pour ça.
Autre mesure qu'on nous annonce aujourd'hui, les fonctionnaires étaient requis au bureau 2 jours par semaine. Maintenant, ce sera 3 jours par semaine.
Oui, et ça, d'ailleurs, on écoute France-Hélène Duranceau par rapport à ça. Pourquoi ce retour à 3 jours en présentiel?
Transformation de l'État, c'est aussi une transformation de la manière dont on travaille au quotidien. Oui, faire les tâches qui sont les plus pertinentes, mais comment on s'organise au quotidien pour livrer ce qu'on a à livrer? Alors, on pense que le retour au bureau à 3 jours semaine, à partir du 26 janvier 2026, fait partie d'une meilleure organisation du travail. On pense aussi que ça va renforcer la collaboration entre les collègues, cohésion, sentiment d'appartenance, créativité, le mentorat, puis je vais utiliser le mot coaching, là, qui me collait bien. Alors, ça aussi, c'est important de voir les gens. Les humains sont des bêtes sociales, là, alors c'est important de s'assurer de rencontrer les gens et de ne pas juste se côtoyer à travers un écran.
418-971-1021, vous en pensez quoi de ce retour à 3 jours au travail après ce discours de France-Hélène Duranceau? Bon, mis à part le fait que je ne savais pas que c'était une coach, le reste, c'est rempli de logique.
Bon, OK. Sur le coach, là, moi aussi, ça m'a accroché l'oreille parce que moi, en tant que passionné des communications claires, des fois, les gens sont dans leur tête en titi.
Ah, oui.
De quoi qu'elle parle? Comme vous savez, ça me colle bien être une coach. On ne savait pas ça.
Ben non, c'est ça.
Tout le monde est au courant que ça lui colle bien à la peau.
De quoi qu'elle parle?
Qui?
Elle fait du coaching de quelqu'un, je ne sais pas, moi.
Qui était au courant? Sa mère?
Ça, c'est quand tu es dans ta bulle un petit peu, ça arrive. Ouais. Pour en revenir au télétravail, honnêtement, c'est vraiment correct comme mesure.
Oui.
3 jours semaine, c'est très correct. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut trouver l'équilibre parfait. Parce que aller au bureau à tous les jours, t'sais, vous autres, vous le faites, là, aller venir sur place à tous les jours, vous ne faites pas de télétravail,
pas
c'est correct. Il y a des jobs qui ne s'y prêtent pas. Mais quand tu fais des jobs de bureau, passer du temps dans le trafic, là, gosser ses lunchs, la flexibilité, être obligé de prendre congé pour que le plombier vienne chez vous, des affaires de même. Moi, personnellement, l'arrivée du télétravail et de cette flexibilité-là a augmenté ma productivité beaucoup plus parce que je perds bien moins de temps dans mes déplacements, etc. Par contre, si tu es 100 % en télétravail, bon, premièrement, s'il y a des gens qui sont moins travaillés un petit peu, ben c'est plus difficile de les voir. Mm-hmm. Même si on dit « Ah, mais tu sais, il faut que tu atteignes tes objectifs », honnêtement, c'est quand même... Tu sais, mettons que j'ai atteint mes objectifs puis je peux aider mon collègue, quand je suis tout seul chez nous, ben je peux peut-être aller niaiser sur Netflix, alors que quand tu es au bureau, tu vas peut-être plus faire « Hey, peut-être que je peux t'aider, cher collègue, avec quelque chose. » Deuxièmement, dans la fonction publique, un des problèmes qu'on a, c'est les silos. C'est sûr que si tu es chez vous, là, puis, tu sais, des fois, on fait l'image, là, du fonctionnaire qui est dans son cubicule, puis qui fait juste son dossier, puis ça, c'est pas ma job le reste. Je fais vraiment un cliché. J'apprécie beaucoup le travail des fonctionnaires. Mais c'est sûr que quand tu vois jamais tes collègues, je trouve que ça augmente le syndrome de l'isoloir. Pas de l'isoloir, là, mais du cubicule.
Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, vous savez, j'ai travaillé au RTC, puis. C'était le gros défi au RTC de réussir à faire en sorte que la planification du service parle avec l'exploitation du service qui vit des problèmes pour qu'on améliore pour la saison suivante, qui parle avec les superviseurs des chauffeurs d'autobus pour être sûr de bien coacher sur les nouveautés. Alors, si tout ce beau monde-là se retrouve en télétravail, oublie ça.
Puis tu prends pas, je veux dire, tu prends pas rendez-vous avec quelqu'un pour échanger quelques minutes sur qu'est-ce qui se passe dans ton secteur. Non, c'est pas vrai, là. Tu sais, Il y a un équilibre à respecter. Par contre, parce qu'il y a toujours un mauvais côté de la médaille à tout, tu sais, à la suite de la pandémie, quand on a envoyé les gens 100% en télétravail, mm-hmm. puis retour au bureau 2 jours par semaine, ben on organisait aussi les espaces de travail différemment.
Exactement.
Tu sais, les petits bureaux fermés, puis le petit classeur où est-ce que tu peux mettre tes souliers, puis ton déo, puis ta brosse à dents, oui. ça a pris le bord.
Là, on comprend, tu n'auras plus ta photo d'enfant sur ton bureau, parce que ça va être un bureau partagé.
Ouais. Ça, c'est fini, mais tu sais, je fais des jokes avec la brosse à dents et le déo, là. Mais mm-hmm. tu sais, traîner ta vie tout le temps dans ta mallette, là.
Non, c'est
inconfortable. Ah, ouais. Deuxièmement, ben, il y a moins de salles de réunion. Les espaces, souvent, ont été réduits. Pas nécessairement dans tous les ministères, mais il y en a quelques-uns qui ont réduit leurs espaces.
Et avec raison, parce que c'est des coûts qu'on vient économiser.
Puis, tu sais, je vais faire un parallèle avec l'agence de com avec laquelle je collabore régulièrement. Tout le monde est au bureau, là, ça ne marche pas. Il n'y a plus de salle de réunion. On n'est plus capable d'avoir une salle de réunion parce que c'est maintenant fait pour que tout le monde soit pas là en même temps.
T'as raison.
Donc, bref, à suivre. Mais bref, France-Hélène Duranceau, elle laisse beaucoup de latitude à chaque ministère. T'sais, oui, elle est responsable de donner les grandes orientations et les objectifs finaux, mais elle ne peut pas aller dans le détail. Puis honnêtement, je me dis, le temps comme file là, jusqu'à la prochaine campagne électorale, est-ce qu'on va voir vraiment des mm-hmm. choses coupées et des résultats de ces grandes orientations-là?
Ça va être difficile.
Il aurait fallu le faire il y a 2 ans.
Oui, c'est ça, exactement. Moi, par contre, je suis très positif avec son approche. Et je m'explique, je déteste qu'un haut gestionnaire vienne faire du micromanagement. Donc, en disant, hey, voici les grands objectifs, voici les grandes orientations.
Arrangez-vous comme
maintenant,
vous voulez,
maintenant, ceux qui sont sur le terrain, atteignez ces objectifs-là. Moi, je trouve qu'elle agit en gestionnaire responsable du Conseil du Trésor. J'adore ça. Mon point, c'est que pour le reste, ça reste très flou.
Oui.
Tu en as parlé, la bureaucratie, c'est quoi? Et je vous fais entendre un échange également. Je crois que c'est avec Louis Lacroix de Cogeco sur le fait qu'on mise beaucoup à dire « je coupe 5 000 postes », mais dans les faits, c'est l'équivalent en heures de 5 000 postes parce qu'on offre la possibilité maintenant aux employés de l'État de travailler 32 heures semaine au lieu de 35. Et ça, ça manque énormément de précision pour moi.
Bien, ça, c'est volontaire, là. Alors, tu sais, c'est pas un nombre, à moins que...
On n'a pas les informations.
C'est 50 000 personnes globalement dans le gouvernement qui peuvent être éligibles à ça. Après ça... Ça va être une discussion entre les individus et leurs gestionnaires selon le volume de travail puis selon leur perspective.
Mais c'est parce que c'est beaucoup là-dessus que vous misez, là.
Non, c'est un des cinq leviers.
Comprends. Mais si vous coupez personne...
Bien, s'il y a un poste qui reste non comblé, c'est des heures de moins. Si je coupe de la bureaucratie puis des rapports puis il y a des annonces qui s'en viennent à cet égard-là, c'est aussi des heures qui ne seront pas travaillées. Si on mutualise des services puis des fonctions, c'est aussi des heures en moins parce qu'on les concentre à un endroit plutôt qu'à un autre. Alors, c'est le cumul.
C'est-tu une annonce pour faire une annonce? Parce que t'as entendu la même chose que moi, Pascal? Si on coupe dans la bureaucratie, si on mutualise, si on a assez de gens qui veulent 32 heures... OK, mais comment tu fais pour arriver à 5 000?
Il me semble que ça aurait été intéressant qu'elle arrive... Dans ses consultations... Ils ont consulté tous les ministères déjà, OK?
Mm-hmm.
Avant de faire cette annonce-là. De nous arriver avec quelques exemples concrets. Parce que je comprends qu'elle ne pouvait pas, elle, dire « ben c'est ça qui va être coupé, fait que là, je peux vraiment faire mon calcul. » Elle ne sait pas encore ce que les ministères mm-hmm. vont couper exactement. Mais ça aurait été intéressant qu'elle nous arrive avec quelques exemples plus concrets, je pense.
Oui, plus concrets.
Mais elle ne pouvait pas arriver avec les chiffres finaux.
Ouais,
c'était pas possible.
Non, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je connais des gens qui travaillent au ministère de l'Éducation, puis ils ont déjà commencé le travail. Puis ils ont déjà des gens qui sont partis à la retraite. Ils ont réparti le travail entre d'autres. Fait que ça fait en sorte que dans une unité qui était 12, ils sont rendus 9. Ben ça, c'est un exemple concret de dire « Hey, voyez ce que ça fait par attrition, vous voyez, telle ressource a été prêtée à
mais
tel endroit,
pas eu le total,
on ne l'a pas remplacé. »
Tu n'auras pas le total de nombre de personnes là.
Non, exactement, tu n'auras pas le total là, mais
on
au
l'aurait
moins...
si elle avait annoncé, si le gouvernement Legault avait fait ça il y a 2 ans.
C'est ça, mais au moins, je reviens à ton exemple, je reviens à ce que tu disais d'exemple concret. En passant pour le télétravail, il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, moi, j'avais été embauché à 100% télétravail, fait que là, on me fait arriver 3 jours au travail. » En effet.
Mais ça, c'est autre chose. Puis on a déjà discuté ensemble, je pense, dans les technicalités. Si dans ton contrat, c'est écrit, tu vas probablement essayer de te défendre quoi que ce soit. Après ça, dans les droits du travail, est-ce que c'est applicable? Est-ce que quelqu'un est capable de se défendre puis garder son droit acquis, admettons, au niveau du contrat?
Un fonctionnaire, peu importe comment tu as été embauché, c'est appliqué. Ils gagneront pas.
Non, c'est ça.
Au privé, peut-être.
Ouais. Une auditrice nous écrit « Bon, bien beau le retour au bureau, mais vu que mon équipe est répartie partout dans la province, je vais quand même faire 3 journées de Teams. »
Bien, il y a ça, Puis, la CAQ avait promis d'envoyer des postes en région, mm-hmm. justement. Mm-hmm. Donc, quand t'es, mettons que toi, t'es à Bécomo, là, puis t'es tout seul de ton équipe à aller au bureau. Hey, tu vas aller faire du présentéisme au bureau. Je sais pas comment ça augmente.
Ils vont payer des bureaux pour ça.
C'est
exact.
Ça.
Fait que, tu sais, il y a ça aussi à travers cette annonce-là. Je pense que le principe est bon, mais quand tu regardes certains cas précis, ouais. tu te dis...
Dans l'application.
Dans ce cas-ci, je suis pas sûr que ça augmente. Les beaux avantages qu'ils mettaient de l'avant seront pas atteints par tout le monde. Là.
Et je termine avec un commentaire sur Twitch. Elle va demander au gestionnaire de couper là où ils jugeront nécessaire. Donc, si le gestionnaire est à couper, on ne le saura jamais.
On s'auto-coupe, ça c'est rare hein, que les gens s'auto-coupent.
C'est un bon point, mais là j'imagine qu'il y a des gestionnaires au-dessus qui ont le job aussi à
mais
faire.
Imaginez qu'ils regardent juste la colonne salaire, mettons, puis ils descendent. Ouais. Tabou, un méchant gros salaire, ouais. voyons donc. Tourne à gauche, c'est son nom qui est écrit, elle va passer vite.
Mais il faut comprendre par contre que les plus hauts gestionnaires, donc les sous-ministres et sous-ministres adjoints, sont nommés par le gouvernement.
Non, c'est ça.
Donc si, ben tu sais, on coupera pas les sous-ministres, là, mais tu comprends, il y a un jeu de... Si le sous-ministre n'atteint pas ses objectifs ou fait pas ce que le gouvernement lui demande, il se fait sauter.
Ouais. Mais bref, moi, je suis quand même en faveur du retour au travail parce que pour tout ce qui est cohésion sociale, cohésion d'équipe, enlever l'isolement social, puis là, t'sais, c'est quelque chose de très personnel que je vais dire parce que ça va avec mes valeurs, mais moi, je trouve que le télétravail a créé de la paresse.
Moi,
les gens qui sont à la maison, foirés, puis ils restent foirés.
Je pense que les gens paresseux, ils niaisaient au bureau. Puis ils nous dérangeaient au bureau.
À machine à café.
Ils étaient tout le temps rendus à machine à café.
Ouais, c'est vrai aussi.
Tu sais, le collègue qui fume des cigarettes aussi, là. Tout le temps rendu en train de fumer, tu te dis, Christy, ouais. dans sa journée, ça fait combien de temps? Moi, Mais je pense que si t'es paresseux, t'es paresseux. Tu vas toujours trouver une manière. C'est sûr que t'as un peu plus de contrôle en étant à la maison. Moi, honnêtement, être en télétravail, ça m'a aidé. Parce que je suis plus capable d'être focus. Je perds moins de temps avec des niaiseries. Tu sais, l'idée maintenant de me faire un lunch à tous les matins puis d'arriver à 5h30 du soir pour commencer le souper, là, je trouve ça d'une lourdeur infinie. Par contre, évidemment, on s'organise toujours en conséquence puis on réussit. Mais je suis pas sûre que y a... Tu sais, il faut qu'on trouve l'optimum, là, tu sais, le point parfait là, qui fait en sorte qu'on a la productivité maximale.
Passons à un sujet chaud, c'est-à-dire Pablo Rodriguez et le Parti libéral du Québec.
Tu trouves que Pablo est chaud?
Il est chaud. Ouais, c'est ça. Non, je trouve pas nécessairement qu'il est chaud. Ben, peut-être certaines femmes avec sa coupe de cheveux, je sais pas, son long toupet, peut-être. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai comparé hier la façon de procéder du Parti libéral du Québec à la façon de procéder à la FTQ Construction.
Ah.
Parce que quand on nous dit qu'on fait pas bien les affaires, on cherche pas à savoir qu'est-ce qui est pas bien. On cherche à savoir c'est qui nous a menti et on l'exclut de l'équipe.
Si je vous ai convoqué, c'est pour vous annoncer que j'ai pris la décision d'expulser Marois Risky du caucus du Parti libéral du Québec. Je lui ai demandé qu'on se parle, vous le savez, elle refuse de le faire. Elle a choisi de tourner le dos à notre équipe. Ça suffit. Ça suffit.
Suffit. Admettons qu'on y va sur la forme pour commencer, parce que je pense que ça a frappé l'imaginaire de nous trois et l'imaginaire de tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et en passant, 418-971-1021, vous avez été énormément à réagir pour le télétravail. Ça a-tu pas l'air d'un leader?
Oh, regarde, c'est...
Non, mais tu sais, il me semble, là, OK, là, je l'ai mis dehors Risky parce que là, elle a été contre notre parti, puis il n'y a personne qui va aller contre notre parti. Le Parti libéral, on n'est pas un parti de corruption, puis pic.
Suffit. Il l'a dit, puis il a mis une pause entre les deux mots.
Oui, puis là, il a redit après ça. Ça suffit. Essoufflé d'avoir parlé 22 secondes.
Il était essoufflé, il est chaud. Il est chaud, Pablo, il est chaud, on le disait tantôt.
Fait que sur la forme. Comment tu veux qu'on y fasse
mais
confiance?
Il n'est pas capable. Parce que honnêtement, dans chaque je suis certaine que l'équipe autour de lui dit « Là, monsieur le chef, il faudrait respirer, il faudrait être un petit peu plus... avoir un débit un peu plus lent quand vous faites vos conférences de presse. Ça peut donner une impression de panique. » Puis il ne s'est aucunement ajusté depuis 2 semaines. C'est le même point de presse essoufflé qu'on a.
Ah oui!
Là. Il est essoufflé, là. Puis, je le comprends, là, ça va pas très bien.
C'était soufflant,
là. J'en suis, mais il faudrait peut-être qu'il fasse un peu de cardio, notre pauvre monsieur Rodriguez. Exclusion de Marois Risky. Écoute, je pense qu'il y a des gens qui ont dû dire, OK, c'est quoi l'annonce? Parce que pas mal de monde pensait qu'elle était déjà exclue. Elle était suspendue.
Ah non, c'est ça.
Puis là, hier, dans la tourmente et tout ça, il a décidé de créer lui-même une nouvelle en excluant officiellement.
Oui, dans la tourmente là, des prêtres, non, à 500 $ là. Mais,
ils ne savent plus quoi faire comme diversion en passant. Là. Ils ont essayé d'annoncer une candidature vedette la semaine passée.
Ça a passé
le fils
dans
de
le beurre.
Jean Charest, ça a passé dans le beurre. Là, on annonce l'exclusion là, proactivement là, de, non, de Marois Risky. On ne sait plus quoi faire, on dirait.
Mais la gangrène est prise. Et en plus que la gangrène est prise, là, on commence à vilipender les médias.
Avez-vous de l'information qu'on n'a pas? Avez-vous de l'information qu'on n'a pas? S'il vous plaît, dites-nous-les. Là. Mais ce monde-là, on va les mettre dehors. Oui, Mme Prince. Ben écoutez, là, avez-vous de l'information, Mme Prince, qu'on n'a pas? S'il vous plaît, donnez-nous-la. Là. Comme ça, ce monde-là, là, on
alors,
va leur donner...
Suivez-nous à LCN parce que la deuxième heure du TVA Midi se poursuit à l'instant.
Ben là, écoutez, encore une fois, ce que je vous dis, là, Y a-tu quelque chose qui a été dit, qui n'a pas été dit encore? Oui, c'est qui ces personnes-là? Je comprends.
Vous en prenez les médias?
Un instant, là. Oh, mais
justement,
c'est
les médias qui font un job à votre place.
Parlez-moi, là.
Vous en prenez les choses dans les médias?
Ben, on en apprend un petit peu à tous les jours. Alors, au bout, je veux savoir ce qui se passe. Comme ça, on va être mon message et qu'on sache chez qui, qu'on les mette dehors. Parce que là, on commence à être écœuré.
C'est la job du Parti libéral de savoir ce qui se passe à l'intérieur du Parti libéral. Avez-vous des noms? Savez-vous ce qui se passe? Bien là, si t'es une organisation qui se respecte, puis on s'entend, là, Parti libéral a de l'histoire vieux comme le Québec. Là.
Le parti de la corruption. OK. Dans le fond, là, si les libéraux avaient déclenché eux-mêmes une enquête interne quand les textos se sont mis à circuler, Enrico ne serait pas en train de crier dans le corridor à l'Assemblée nationale. C'est qui? Il est où, le petit bum? Bien... Vous auriez dû nous annoncer c'était qui les petits bums, puis que vous les avez exclus proactivement. Ça aurait été une bonne gestion de crise. En fait, ça aurait été une gestion de prévention de crise. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu. Et là, ben, moi, j'ai pas senti qu'ils reprochaient aux médias nécessairement ce qui se passe. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on peut pas se défendre de quelque chose qu'on sait pas exactement c'est quoi. Si on apprend c'est quoi la vérité, là, on peut poser des gestes. Puis il n'y a pas tort sur le fond des choses.
C'est vrai.
Mais ils ont quand même leur tort de ne pas avoir pris des mesures plus tôt parce que ces textos-là qui parlaient de malversation dans le financement de Pablo Rodriguez, ça faisait depuis le printemps dernier que ça circulait. Et c'est sûr qu'il y a un message aussi pour Marois Risky à travers ça. Parce qu'elle refuse toujours de parler. Elle refuse toujours de s'expliquer. On spécule depuis deux semaines là-dessus, mais il y a deux options possibles. Soit qu'elle a une bombe entre les mains et que c'est tellement gros qu'elle ne peut pas interagir avec une enquête là, qui est en cours.
Mm-hmm.
Ou elle n'a pas grand-chose dans son jeu, puis elle préfère que la spéculation continue, puis là, de voir Pablo Rodriguez s'auto-détruire ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y avait un désaccord au départ avec l'ancienne directrice de cabinet Geneviève Vince, des désaccords sur le budget, mais c'était rien là, pour que l'UPAC s'en mêle, là, on s'entend. Là. Et que là, ben, quand elle est sortie, quand elle a congédié Mme Vince, puis que l'histoire des Brownies est arrivée un peu par hasard en même temps, ben, c'est comme si ça devenait un argument pour elle. T'sais, dans le sens, je ne suis pas sûre que l'exclusion, le congédiement de Mme Hinz avait quoi que ce soit à voir avec les questions de financement politique. Mais une fois qu'elle s'est tarée dans son silence, on spécule que oui. Donc, ça lui sert à quelque part. Elle dit dans son message Facebook d'il y a quelques jours là, qu'elle a publié avant le passage de son chef à Tout le monde en parle, elle disait « c'est une affaire de ressources humaines ». Non, en politique, il n'y a pas d'affaire de ressources humaines, puis il n'y a pas d'affaire purement judiciaire. C'est politique, tout est politique. Elle le sait très bien. Deuxièmement, elle disait qu'elle ne pouvait pas parler parce que quand tu congédies quelqu'un, tu n'as pas le droit de dire les
mais
raisons.
Mais sur ce point-là, par exemple, Geneviève Vince, elle a dit, mais elle a juste à parler.
Elle a renoncé à la confidentialité. Et deuxièmement, pour ce qui est des risques de poursuite ou quoi que ce soit, les députés ont ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Donc, elle peut aller dire au Salon Rouge, d'habitude, c'est le Salon Bleu, mais là, c'est ainsi ta rénovation, mm-hmm. Donc c'est le Salon Rouge. Elle peut aller dire des choses et ça ne peut pas faire l'objet d'une poursuite. Si c'est de l'ordre criminel, c'est autre chose. Elle peut pas, là, tu sais ça. Mais si c'est de l'ordre civil, elle peut aller prendre la parole et expliquer les raisons du congédiement de Geneviève Vince. Pourquoi elle refuse de le faire?
Donc, tu es en train de me dire qu'elle pourrait au minimum prendre la parole sur certains enjeux.
Oui. Puis maintenant, évidemment, il y a une poursuite. Geneviève Hinz poursuit Marois Risky. Mais Geneviève Hinz, elle n'est pas députée. Elle va aller par la poursuite. Mais Marois Risky, elle pourrait prendre la parole et dissiper au moins une partie du brouillard mm-hmm. qui flotte au-dessus de son parti. Moi, je comprends qu'elle préfère ses propres intérêts que celui de son parti politique. C'est ses choix. Mais éventuellement, on va finir par le savoir, ce qu'elle avait entre ses mains. Là.
Bien, parce que tu sais, depuis tantôt et puis depuis des semaines que vous m'entendez dire « Ouais, le Parti libéral, ça n'a pas d'allure, comment qu'il gère ça? » Puis Pablo Rodriguez, c'est pas un bon leader, et je le crois pertinemment, mais... Moi, personnellement, je suis rendu à l'endroit aussi où là, Marois Risky ne peut plus se terrer dans son silence.
Tu sais, la transparence aussi, si elle est si justicière que ça, tu sais, dans le fond, là, de donner les informations, ça va l'aider elle, parce que honnêtement, ça commence à être un peu bizarre.
Oui.
Ça va aider son parti. Moi, je m'en fous du Parti libéral, mais si elle a le moindre attachement envers son parti, elle voit bien la situation dans laquelle tout le monde est présentement. Et ça va aussi permettre de réparer la réputation de Geneviève Hinze. Peut-être qu'elle l'haït puis qu'elle ne veut pas réparer sa réputation, mais je veux dire, sa réputation à Geneviève Hinze, elle est entachée.
Non,
elle n'a pas moyen de se défendre parce qu'elle ne sait pas pourquoi exactement, qu'est-ce qu'on lui reproche. Donc, je trouve que ce serait gagnant qu'elle sorte. La seule raison pour laquelle je vois qu'elle ne voudrait pas sortir, bien, la première, c'est que c'est une avocate conseillée par des avocats. Là. Des fois, ça fait ça. Mais l'autre raison, c'est que j'ai l'impression que c'est pas si gros que ça, ce qu'elle a entre ses mains.
Oui, c'est ce qu'on pense. C'est une grosse bombe. C'est pas si gros que ça. En tout cas, bref, tu sais... Faudrait au moins qu'elle donne certaines informations. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Parce que là, le sondage de ce matin, publié, Parti libéral à 21%, moins 6% par rapport au 12 novembre.
Personne n'est surpris de ça. Là.
Non, personne. Parti québécois, 39% plus 7%, un score record dans les 15 dernières années.
Personne n'est surpris de ça.
Non.
Ben, attends, excuse-moi. Le Parti libéral perd 6 points et ça s'en va au PQ?
Oui, mais c'est ça. Yannick nous questionnait là-dessus ce matin. Il disait, voyons, je comprends pas. Moi, j'ai eu comme... Denis Gravel a dit, moi... Ma théorie, c'est que les gens veulent voter pour le gagnant. Ils savent que c'est le PQ qui va gagner.
Je suis d'accord avec
m'en
ça.
Va là.
Oui.
Moi, j'ai parlé de crédibilité parce que depuis 3 ans dans les sondages, quand on parle de la personne qui ferait le meilleur premier ministre, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. Fait que là, les gens disent, moi, je vote pour PSPP. Oh, y'a le référendum. Oh, y'a la souveraineté. Je voterai non. J'y vais.
Ouais.
Toi, Pascal, t'en penses quoi?
L'alignement. Je pense que ce sont les seuls en ce moment qui n'ont pas eu de sortie de zone ou de route. Ils tiennent.
C'est très bon.
Ils disent,
les autres sont en crise.
Les autres sont, c'est le seul parti qui ne l'est pas. Ouais. Alors que tu sois souverainiste ou pas, séparatiste ou pas, ou tu es écœuré de prendre le clos. Tu es dans le ravin depuis une couple d'années, puis ce sont les seuls qui ont décidé de passer à travers la boîte puis de réussir à s'en sortir en ce moment.
C'est quand même drôle. Puis, mettons, tu pensais voter libéral, puis là, un mois plus tard, tu votes le PQ.
Mais je pense
spécial,
que le monde est désillusionné et est vraiment écœuré de la politique. Ils ont juste hâte que ça se place parce que quand
tu
es orphelin politique, c'est souffrant.
Pascal, moi, tu pourrais voter Parti conservateur du Québec.
Oui, mais Parti conservateur, on va dire ce qu'on a dit un matin. 13 %. Il y en a 5-6 % de ce monde-là. Là. C'est des coucous. Là.
Ouais, c'est faut bien qu'il y aille à quelque part. Là. Il y a un parti politique.
Oui,
il y en a un qui est plus ancien que l'autre. Je reviens avec ma première phrase. Il est plus ancien que les autres partis.
Oui.
Même au sein du conservateur
tu
qui prend pas la...
valeur à mener. Ça tue un petit
moi, je pense
impact.
Que tu peux piler dessus. Rendu là, les orphelins
le bien,
politiques
là.
Ou on pas, c'est peut-être...
Mais je comprends ton jeu de valeur. Sauf qu'on vient de nommer 3 raisons qui sont crédibles. Je veux
tout
voter pour le gagnant. Je veux voter pour mon premier ministre.
Je suis d'accord avec tout ça.
Puis là, le PQ, c'est le parti le mieux aligné depuis 3 ans. Je vais aller là. Fait qu'à un moment donné, peut-être que tu te dis, ouais, les libéraux sont dans un scandale épouvantable, mes valeurs ne m'amènent pas là. Ouais, la CAQ, ouf, usure du pouvoir, c'est de la bouette. Ils nous ont fait plein de promesses, mes valeurs ne m'envoient pas là. Le Parti conservateur, crime, quand j'ouvre Facebook, j'ai des uberlus qui n'arrêtent pas de me crier après, chez le malheur de dire, mais ça me semble qu'Éric Duhem a dit quelque chose de pas correct. Puis Québec solidaire, ben écoute, c'est le virage à gauche. Fait qu'à un moment donné, je te fais mes valeurs à moi personnellement, là.
T'es embêté?
Ben, j'ai jamais voté PQ de ma vie.
Ouais.
Puis, gars, là, je te fais mon schéma de valeur, là, puis je suis au PQ.
J'avoue.
Fait que je suis dans le 39%.
Puis, j'ajoute un autre élément. Les Québécois ont tendance à voter de manière un peu contraire au fédéral, puis au niveau québécois. T'as vu, je me suis empêchée de se promettre. ils ont voté pour Mark Carney.
Oui.
Fait que là, puis il est pas très pro-Québec, puis tout ça. Fait que là, on dirait qu'il compense l'autre côté.
Ouais. Il est pas très pro-Québec. Ben, Mark Miller est pro-Québec depuis ces temps-ci.
T'as-tu entendu son beau plaidoyer hier? Il était écœuré d'entendre parler de langue. Bon,
mais attends, je vais te le faire écouter. Okay.
Ce que je déplore dans cette discussion, c'est la politisation de l'enjeu. Je veux quand même le dépolitiser. Mais je pense que c'est utilisé pour des raisons identitaires, puis je pense que, comme Québécois, année de ce débat. Il faut faire un effort supplémentaire. Je pense que ça prend l'implication du fédéral, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, surtout ailleurs au Canada. Ce que je refuse, c'est ce catéchisme que veulent certains partis politiques pour dire que le français est en recul total.
Je vais t'en faire une autre hypothèse du plus 7%. Les libéraux canadiens sont tellement pourris que le monde dit « C'est qui meilleur pour aller combattre? » Le PQ.
Le PQ, c'est ça. On va avoir un bon show.
Ah,
c'est ça qu'on se dit.
C'est vrai.
Et un autre donnée qui est un peu catastrophique là, pour Pablo Rodriguez dans ce sondage, c'est quand on pose la question « Avez-vous confiance que Pablo Rodriguez peut rebâtir le Parti libéral du Québec? » 52% pensent que non. 17% pensent que oui. Seulement. Et il y a quand même un 31% qui ne sait pas. Tu es en train de se faire une opinion.
43% à l'intérieur du Parti libéral, seulement 43%. Mais pour André Fortin, c'est suffisant, on l'écoute.
Il y a une chose que je vais noter dans le sondage qui a été publié ce matin, là, c'est que chez les électeurs libéraux, chez les supporters du Parti libéral, chez les gens qui veulent que le Parti libéral offre une alternative sérieuse au gouvernement, Pablo Rodriguez a l'appui d'une grande majorité de ces gens-là.
39% disent qu'ils n'ont pas confiance en Pablo Rodriguez chez les électeurs libéraux.
Moi, j'ai vu une majorité d'électeurs libéraux là, qui...
Oh, on est passé de très grande majorité
à Pablo
majorité.
Rodriguez, qui, comme nous, comme les députés du caucus ici, donnent leur appui à Pablo Rodriguez. Et c'est pour ça que, pour nous, là, il a notre confiance à 100%.
100%!
Oh,
il a la confiance à 100% du caucus.
100%.
Pas sûr de ça, là. Moi, c'est pas sûr. Ben, déjà, là, il n'a pas la confiance de Marois Risky puis de son mari.
Il n'est plus dans le caucus pour ceux qui ont 100% à ça. Mais le chum à Marois, c'est pas trop.
Mais ça aussi, c'est catastrophique. Là. 43% à l'intérieur des libéraux. Tu peux pas sortir comme André Fortin ce matin, qui remplace Marois Risky à l'Assemblée nationale, plus je me trompe dans le titre, tu me le diras, comme chef parlementaire, et qui s'en va dire, ben non, une très grande majorité. Hey, c'est 43% normalement à l'intérieur de tes sympathisants. Quand tu vas dans un vote de confiance à un congrès...
On se rappelle, Bernard Landry est parti avec 76%.
Ben, c'est ça. Puis tu ne scores pas 90%, tu te poses des questions sur ton leadership.
Non, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Puis même si tu dis, ouais, mais là, les chiffres, c'est sûr, chez les non-libéraux, nanana, ben c'est parce que tu as besoin de croissance aussi.
Ben c'est ça. C'est parce qu'à 21%, à 12% chez les francophones, avec le PQ qui frappe à 48%, ben le Parti
libéral... On
le voit pas,
là, le chemin vers la victoire.
Le Parti libéral va rester le parti... des communautés anglophones à Montréal et that's it.
Exactement. Puis il y avait un sondage Palace d'Hôtel la semaine passée qui démontrait que Pablo Rodriguez tirait déjà le Parti libéral vers le bas. Et là, ça va de mal en pis. Puis l'autre élément important dans ce sondage, c'est à quel point la CAQ n'a pas bougé. Là. Honnêtement, les réflexions de M. Legault doivent quand même se poursuivre. C'est quelqu'un de très têtu. Moi, je n'exclus pas qu'il reste. Et surtout que la crise chez QS et au Parti libéral, c'est comme si ça lui avait donné la possibilité de prendre une grande respiration entre deux vagues d'eau. Là.
Mais malheureusement, ça lève pas.
Ça lève pas.
Les gens sont tannés de François Legault.
Mais lui, dans sa tête, là, personne ne peut le remplacer.
Non, je sais.
C'est il y avait ça encore, là.
Ben, il a été le bon Dieu de la COVID.
Oui.
Mais fondamentalement, à un moment donné, ça doit faire partie de ta personnalité parce que si tu restes accroché sur le fait que tu penses que le bon Dieu, il y avait quelque chose avant que le bon Dieu te laisse sa place sur le je veux dire, sur le stade, là. Tu sais, à un moment donné, moi, il y a bien des questions que j'aimerais poser à son entourage. Ouais. Je sais que c'est inaccessible, sauf qu'il faut se poser des questions sur la suite. C'est encore une histoire de la compagnie, finalement, la compagnie Legault Inc. Fait que quand Legault va quitter le bateau, il n'y a pas de repreneur. Alerte! Je veux dire, on va couler comme le bateau dans Astérix et Obélix.
Oui, mais hier, on a entendu Pierre Poilievre, son discours de Pâques. Là. Je pense que c'était pas Jesus Christ.
Il parlait
disait,
de
François Legault.
Mais il l'a dit, François Legault, en entrevue à la suite de son discours d'ouverture et remaniement ministériel, il a fait une tournée d'entrevue et il disait « Je peux pas m'en aller parce que les gens, là, c'est moi qui les ai recrutés. Puis c'est des gens très différents les uns des autres. Puis si je m'en vais, là, ça va pas tenir ensemble ce monde-là. Hey, ça va bien. Ça va, ouais. »
Juste parce que t'as pas eu ton rôle de leader à cœur ou au bon endroit au moment
t'as
où c'était important.
T'as pas pensé à long terme, t'as pas travaillé sur la suite des choses. Et là, mettons qu'il décide de s'en aller, là, spéculons.
Ouais.
Il y a une course à la chefferie. Je veux dire, les chances que des factions très, très, très différentes se forment.
Ça va se faire.
Ça va, c'est vrai que ça va se
faire. Les rouges, les bleus à l'intérieur de la CAQ.
La droite, la gauche, il y a tout là-dedans. Fait que là, imagine. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais c'est sûr, c'est pas un sondage qui est très reluisant non plus pour la CAQ. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui reste vraiment sûrement le plus de bonne humeur parmi nos chefs.
Dans ce sondage de la Nation. Hey, j'ai déjà changé.
Merci. Yes. Bravo.
OK, on fait une courte pause. Mathias Turcotte va venir nous voir pour nous parler en détail du budget de la ville de Québec. On va également vous faire des manchettes. On va vous parler de cette raclée que le Canadien a mangée 5-2 contre les Sénateurs d'Ottawa. C'est ce qui suit après cette courte pause sur les ondes de Boulevard 101. Vous êtes à l'émission On en jase. Il n'y a pas à dire, je capote bien raide sur Ludovica Miniland, un monde miniature encore plus grand à Québec. On peut voir pas moins de 3000 reproductions miniatures construites par les concepteurs de l'exposition. Et tout ça se passe à Laurier, Québec. C'est une reproduction gigantesque, par exemple, de la ville de Paris qui a été utilisée pour la création d'un documentaire américain pour Universal Pictures. C'est la plus grande représentation en Amérique du Nord. Ludovica Miniland est le plus grand parc intérieur de type Legoland en Amérique et la portée de sa collection n'égale que son ampleur. L'exposition déploie des bâtiments et monuments célèbres sous vos yeux, un panorama époustouflant que vous ne risquez pas d'oublier. Faites le tour du monde dans le plus grand parc de type Legoland en Amérique du Nord avec Ludovica Miniland. Seul ou en famille, prenez la route de la découverte à Laurier, Québec et consultez le ludovica.ca.
À l'atelier du Père.
L'émission En jase sur Boulevard 102. Il est présentement midi 42 minutes. On rejoint notre collègue Mathias Turcotte qui est venu nous voir en studio concernant le budget de la Ville de Québec. Mathias, t'as assisté au huit lots, t'as assisté à la conférence de presse. T'as-tu les yeux dans la graisse de vine d'avoir vu des fichiers Excel toute la matinée?
Ah, mais mettons c'est une bonne matinée. La présentation du budget, bien tu ça. Commences à 8h30 avec des colonnes de chiffres à plus finir. On te fournit un document de 280 pages qu'il faut que tu décortiques le plus rapidement possible, mettons. Là. Fait que non, ça a été une bonne matinée, ça a roulé.
Check Pascal, moi je suis full heureux, regarde, là, j'ai des feuilles avec ouais. des chiffres, ouais. je vais pouvoir analyser.
Y a-tu un apron?
Je vais lire ça ce soir après avoir animé le cocktail bénéfice du Patro Laval. Ah, ça va être le fun, ça va être le fun, ça va être le fun. Peut-être voir le maire d'ailleurs à soir, il va peut-être être là.
Probablement, chose certaine, il est en entrevue à 16h15 mm-hmm. dans Gravel, dans le retour.
Exactement. Mathias, qu'est-ce qu'on retient de ce budget-là? On savait pas mal déjà que la hausse de taxes était de 1,9% résidentiel, 1,4% commercial. Aujourd'hui, ça avait flirté dans les médias. Il va y avoir des coupures. Ça va nous faire économiser une quarantaine de millions. Bref, y avait-tu autre chose à savoir?
Bien, pour moi, les deux points principaux, c'est vraiment la hausse de taxes, puis je vais apporter quelques bémols sur ça, parce que tous ceux qui sont bien contents qu'on garde la hausse de taxes à 1,9%, ça se peut que vous ayez des mauvaises surprises dans quelques instants.
Ils m'ont dit 62 piastres à Beauport, ta maison de Jeff Fortin, avec comment il est évalué. Fait que moi, je donne pas plus que 62 piastres.
Ouais,
Pascal, aide-moi.
Ça se peut que... En fait, tu vas donner plus que 62 piastres, Jeff, et puis je vais vous expliquer pourquoi. En gros, avec la hausse de taxes de 1,9%, c'est une moyenne sur la ville de Québec au complet. Ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est qu'on mettait fin à la taxe supplémentaire pour les dettes d'ex-ville. On était censé le faire dans 2 ans, mais là, on y met fin tout de suite. Cette taxe-là sur les dettes d'ex-ville qui date depuis la fusion, là, donc ça fait une vingtaine d'années, ça faisait en sorte que certains secteurs de la ville payaient plus cher, un plus haut pourcentage de taxes que d'autres secteurs de la ville. Là, on uniformise le tout officiellement. Fait que tout le monde va payer le même montant de taxes.
Fait que l'année prochaine, quand Bruno Marchand va me dire c'est 1,9%, là, ça va être 1,9% pour l'ensemble de la ville.
Exact, mais cette année, c'est
bonne
pas
nouvelle.
Ça. Puis, ce qui est intéressant dans ce budget-là, c'est que ceux qui restaient à équilibrer, justement, au niveau des taxes, c'était l'ancienne ville de Québec et Val-Belleur. Si on se concentre du côté de l'ancienne ville de Québec, on parle de 40% de la population de Québec. Mm-hmm. Okay? Le fait qu'on enlève cette fameuse taxe-là pour les dettes d'ex-ville, ça fait en sorte que pour l'année prochaine, les habitants de l'ancienne ville de Québec, donc 40% de la population, va avoir une baisse de taxe de 0,6%.
Oh, très intéressant pour eux. Mais là, Antonine Pascal, on le sait bien. Ça vote pour Marchand, ce monde-là.
Ça veut le tramway?
Ça veut le tramway?
Ben oui.
Hey, tu le vois comme moi, Pascal, c'est vrai, là?
Ben, pas nécessairement, mais...
Non, tu le vois
mais
comme
l'affaire est classée, par exemple. On peut ben plus commencer à avoir un débat nouveau là-dessus.
Mais là, qu'est-ce qui se passe avec Val-Belleur qui veut défusionner, eux autres?
Oui, ben Val-Belleur, c'est ça. Également aussi, on l'enlève. Donc, eux... vont augmenter de 2,9%.
Oh.
Mais là où que le bas blesse, c'est que, étant donné que l'ancienne ville de Québec, tous les habitants dans ce secteur-là baissent de 0,6%, pour arriver à une moyenne de 1,9% global, donc soit en dessous de l'inflation, ça veut dire que le reste de la ville de Québec, soit 60% des habitants, puis là, je parle à tout le monde qui habite hors ancienne ville de Québec, tous les auditeurs présentement, ça va pas être 1,9% votre augmentation, ça va être 3%, soit 1% de plus que l'inflation actuelle qui se situe à 2% pour la ville de Québec dans la dernière année. Donc, lorsqu'on dit depuis plusieurs jours du côté de Bruno Marchand, on est content, on va avoir 1,9% d'augmentation de taxes, c'est une moyenne, là. 60%, puis je le répète, 60% des habitants de la ville de Québec, ça va être 3% votre augmentation de taxes l'année prochaine.
On écoute le maire Marchand cet effet sur la raison qui l'a motivé à utiliser la moyenne de l'augmentation des taxes dans ses communications.
Fait que des écarts comme, tu sais, vous avez raison, existent. Ils ont presque toujours existé dans les budgets, dépendamment des dettes des villes et du moment des remboursements. Fait que cette année, on n'est pas différent. On n'est pas du tout différent. Ça donne que puisqu'on parle de variation annuelle, quand on parle de la croissance sur l'an passé, bien c'est sûr que tous ceux qui payaient une surprime, Val-Bélair de façon moindre, et Québec, ont un écart plus grand avec les autres parce que cette surprime-là n'existe plus, leur dette étant remboursée. Fait que pour moi, il y a un, tout est limpide, tout est clair, tout est dit, et on n'est pas, c'est pas comme si on changeait la façon de faire. C'est pas comme si cette année, en 2025, on disait on fait différemment. On a toujours fait ça ici. En 2019, je me souviens pas d'article qui disait qu'à Vanier, on avait 2 alors que la moyenne était 1,2 ou que Québec payait plus ou que Cap-Rouge payait moins.
L'idée derrière ça, au moins, c'est que ça va être réglé pour l'an prochain. C'est réglé plus rapidement. Moi, je vois ça très positivement. Là, je fais bien des jokes depuis tantôt, mais là, à un moment donné, c'est... Ouais, au moins, on va avoir mis ce dossier-là de côté. Vous en pensez quoi, vous autres, Antonine, Pascal?
De la hausse de taxes?
Oui, bien, je veux dire du fait que c'est 1,9 en moyenne.
Ben,
mais que là...
la moyenne, ça fait des beaux titres. Puis il y a quelque chose de communication là-dedans. Puis c'est vrai que les gens ne réalisent pas toujours individuellement ce que ça veut dire pour eux. Puis quand ils réalisent, bien, il est trop tard, puis on est passé à autre chose des nouvelles. Donc, bien joué. Tu sais, on parle de 3% d'augmentation. Ton taux hypothécaire, ça dépend quand est-ce que tu dois le renouveler, mais ça a augmenté. Moi, je viens d'en passer, j'ai augmenté de 2 % là, mon taux d'intérêt. Ça paraît, là, c'est une coupe de 100 piastres par mois, là, ça. Là. Après ça, la valeur de ma maison a augmenté. Je n'ai rien fait pendant tout, c'est juste le quartier. Après ça, il y a eu le boom pendant la pandémie. Tout le monde a acheté des maisons, ça rénove. Tout a augmenté. Donc là, tu rajoutes en plus une augmentation de taxes. Honnêtement, ça commence à apparaître sur le portefeuille des gens. La ville... fait son possible. T'sais, je vois qu'il y a des efforts d'optimisation. Tu te dis, OK, au moins, on fait des efforts d'optimisation. On le sait que les villes ont plus de défis qu'avant, des défis énormes que les municipalités n'avaient pas à gérer auparavant, en termes d'infrastructures notamment. On sent qu'on fait un effort pour que ce soit le moins dur possible, mais à la fin de la journée, pour le payeur de taxes puis le citoyen, ça commence à faire une coupe, pas mal de 100 piastres là, dans sa vie. Là, t'sais.
Moi, je vais peut-être en image politique, là, mais les dernières hausses de taxes ont tellement fait mal et on a tellement martelé que si ça se représentait au prochain mandat d'un maire comme Bruno Marchand, ça n'allait pas passer. Ça va être la dernière fois où on fessait aussi fort. Et je pense qu'il l'a entendu pour cette fois-ci. Puis les coffres, s'il était parti, étaient renfloués de ces taxes-là, multiples, là, toutes différentes, qu'on avait mis dans le même pot. Je pense qu'il s'est dit, OK, là, on a réussi à renflouer les coffres, on va laisser un allègement pour la suite. Il avait dit qu'il allait avec un faible pourcentage, mais honnêtement, il saignait son monde. Il saignait son monde de Québec, puis c'est pas peu dire, je veux dire, c'est toujours le sujet prioritaire au 88-971-1021. Vous en parlez toujours, vous nous donnez des exemples. Bruno Marchand, en termes d'acceptabilité sociale, n'avait pas le choix à ce moment-ci de pas aller trop fort.
Vous en pensez quoi, justement, 418-971-1021? Est-ce que Bruno Marchand a manqué de transparence? Et d'ailleurs, on écoute, il explique pourquoi il ne l'a pas communiqué aux citoyens plus tôt.
Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on aborde le sujet, puis on le fait en toute limpidité. C'est une des premières choses que je vous ai dit. M. Montier en a parlé. On répond à vos questions, on vous présente les choses. Il n'y a rien qui est fait différemment des précédentes années. On vous annonce que c'est la fin des dettes des anciennes villes, et la fin des dettes des anciennes villes a un effet sur ceux qui payaient plus, les gens de l'ancienne ville de Québec, qui est favorable pour eux. Mais on vous a toujours présenté ça de la même façon, même quand Loretteville a arrêté de payer sa dette, même quand Vanier, même quand Sainte-Foy, même quand Sillery a arrêté de payer sa dette. On a rien fait de différent. Puis aujourd'hui, au moment où on dépose le budget, on vous présente l'ensemble des chiffres.
Vous aviez trouvé un beau petit nonos, Mathias Turcotte, les journalistes, hein, parce que il a patiné, il avait mis ses patins sur le taux de taxation, Monsieur Marchand.
Puis il faut dire, il y a une grosse différence parce que lui, il nomme de nombreux petits arrondissements. Puis fait que ça fait en sorte que t'effaces la taxe justement de l'ex-dette des villes. dans ces arrondissements-là, mais l'impact qui se fait ressentir sur le reste de la ville n'est pas aussi grand. Là, on parle de 40 % qui vont avoir une baisse de taxes, mm-hmm. puis l'autre 60 %, ben, ils n'ont pas le choix d'aller pallier pour ça. Donc, une augmentation de 3 %. Ça fait une différence majeure. Puis là où que, de mon côté, j'ai peut-être un léger problème, c'est que ça... Oui, l'information a coulé dans les médias. C'est pas lui qui l'a coulé un peu, ben, en tout cas.
Bon, encore là, Anthony, t'as mais... déjà travaillé dans des bureaux. Les médias, on trouve pas toujours tout.
Non, non.
Ouais, mais des fois, ça arrive pas par hasard.
Mais mettons qu'on donne un bénéfice du doute puis que c'était pas de son vouloir de couler de 1,9 % puis qu'il n'y a pas le choix d'en parler. Ça reste que ça fait plusieurs jours que le message qui véhicule dans les médias, c'est on est à l'écoute des habitants de Québec, on a maintenu ça bas, puis ça reste bas, là. C'est en dessous de l'inflation. Il a respecté sa promesse sur la moyenne de la taxe, il faut le préciser, mais ça reste que de parler à ta population de la ville au complet en disant on a gardé ça bas à 1,9 % puis au final, plus que la majorité se réveille avec une hausse de taxe de 1 % au-dessus de l'inflation, je trouve qu'il y a une certaine problématique là.
Commentaire ici, j'ai déjà été col bleu. Si vous sauriez le nombre de jours où j'ai été payé en me promenant en camion car la température ne me permettait pas de faire l'ouvrage, en plus d'être payé, j'usais un véhicule et l'essence, les contribuables payent pour cela. Et faut faire justement, donc ça explique un peu, puis on va venir justement parler de l'optimisation. Moi, honnêtement, là, je suis pas du tout dans dans la partie où je déchire ma chemise. Je regarde ça, je suis content qu'on harmonise enfin les taxes, qu'on le fasse 2 ans avant. On a diminué la dette de 9 millions encore une fois. Ça, je suis très content. C'était une cible qu'on voulait respecter. Alors, tu sais, moi, je me dis enfin, le travail est fait. On peut juste regarder par en avant.
Moi, j'ai une question pour vous. Je voudrais votre avis. Est-ce que vous pensez que le résultat électoral de Bruno Marchand, puis l'arrivée d'une nouvelle opposition, une opposition mm-hmm. Respect citoyen un petit peu plus à droite, est-ce que ça va avoir un impact sur ce que Bruno Marchand va nous présenter dans les prochains mois et sur ce budget-là, à votre avis, est-ce que ça a eu un impact?
Non.
Toi, c'est non, Pascal, pourquoi?
Parce que je pense qu'il est majoritaire, l'opposition était déjà pas appréciée n'était pas assez appréciée, du moins, même, je pense que M. Lachance aurait aimé être apprécié plus que ça. Ça a été une élection un petit peu gagnée par la faible opposition. Alors, mm-hmm. pour Bruno Marchand, il va aller de l'avant, même s'il se mettait des œillères, il n'y a pas grand monde qui s'opposerait à ça, on comprendrait. Malheureusement, c'est là où il faut qu'il fasse attention à son attitude. On en parle depuis le début. Mais il a ben vraiment un chemin ouvert.
En fait, ma question avait deux volets parce que si... Il peut être influencé par sa grande victoire, en fait, dans son attitude.
Il va l'être. Oui.
Ouais, moi, vois-tu, je me situe complètement ailleurs. Moi, je pense que Bruno Marchand a beaucoup appris de ses deux premières années à la mairie de Québec. Ça a été tough. Il s'est fait retirer le projet de tramway par le gouvernement. Il a chuté énormément dans les sondages. Il a échappé Saint-Roch. Il y a eu beaucoup de dossiers mal gérés dans ces deux premières années-là. Mm-hmm. Dans les deux dernières années, je l'ai vu se transformer. Je l'ai vu être plus proactif, être plus à l'écoute. Et je trouve que ça représente un peu ce nouveau Bruno Marchand-là, dans le sens que on avance justement l'harmonisation de toute la ville au complet pour essayer de faire en sorte d'arrêter cette fameuse coupure-là entre le centre-ville et les banlieues. On continue à rembourser la dette et ça amène au point que Mathias voulait nous parler. On fait des efforts d'optimisation.
Mais une parenthèse, je suis tellement d'accord avec toi.
Ouais.
Sauf qu'une grande majorité comme celle-là, c'est sûr, ça peut influencer. La seule chose, c'est qu'il doit regarder dans son rétroviseur. Puis ça, il s'est tellement fait marteler là-dessus qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Ça aussi, il est conscient.
C'est un excellent point. Excellent point.
Juste pour rajouter un peu sur les taxes, parce qu'on a eu un texto intéressant qui est rentré. La question de Christian. Pourquoi il augmente la taxe de ceux qui n'ont plus de dette? Il ne comprend pas la logique derrière. En gros, si je peux un peu mieux vous l'expliquer, ouais. C'est qu'auparavant, l'ancienne ville de Québec payait plus de taxes, donc un plus haut taux de taxes en raison d'une dette qui avait été laissée par l'ancienne ville. Là, on remonte au début des années 2000. Donc, les habitants de ce secteur-là en particulier payaient plus de taxes en raison de ça. La raison pourquoi il y a une baisse de taxes, c'est pour venir prendre cette taxe-là qui était supérieure et la rendre égale aux autres qui étaient inférieures. Puis que malgré le fait que les autres taxes ont continué d'augmenter, ben fallait baisser la taxe pour rendre le tout égal partout à travers la ville de Québec.
Donc, c'est pour cette raison-là qu'on avait encore ces écarts-là et qu'on les aura pu. Optimisation, 47,5 millions d'économies, coupure de 63 postes. On prévoit du mouvement de personnel, 15 % la baisse des frais administratifs. On parle dans la location, les dépenses automobiles, les frais de repas, de location, etc. aurais-tu pu faire ça avant?
Ben, c'est toujours ça la question. Puis d'ailleurs, j'ai reçu la réponse, j'ai pas pu assister au point de presse de l'opposition, mais j'ai reçu leur réponse par rapport à ça qui disait que justement, ça prouvait qu'il y avait du gras à couper puis qu'on aurait pu couper plus tôt et tout. Puis justement, on a posé la question à Bruno Marchand. De son côté, ce qu'il précise, c'est que c'est un choix à faire ou non, mais que chaque coupure fait quand même mal.
C'est que si on fait pas de coupure, les gens disent « vous osez pas couper ». Si on coupe, la preuve qu'il y avait du gras... Alors, je vous le dis, là, je vous le redis, il n'y a pas de coupure qui fait pas mal. C'est pas vrai, là. Moi, je refuse ces discours des administrations publiques qui disent « on va couper, mais ça apparaîtra pas dans le service aux citoyens ». Puis là, vous allez conséquemment me demander « OK, où ça va paraître? » Hein, c'est ça la question. Puis oui, ça va paraître. Oui. Je vais vous donner des exemples. On va avoir des choix à faire en loisirs. On ouvre des patinoires réfrigérées, mais il va falloir rationaliser certaines patinoires extérieures qui sont moins utilisées. Ça fait mal. C'est pas ça qu'on veut, mais oui, il va falloir rationaliser certains choix. La patinoire du berger réfrigérée, on va probablement devoir la reporter à 2027. Si vous me demandez si c'est mon idéal, non. Mais son ouverture va probablement se faire en 2027. Pourquoi? Parce qu'on a des choix quand on rationalise, on a des choix à faire. Et il y a des choses qu'on doit reporter. Couper 60 postes là, en attrition, même si c'est en attrition, ça a l'air simple de même, là, c'est vraiment compliqué. Parce que les gens voient nos nombres de postes augmenter, ils disent « Ah, la ville augmente, oui, mais n'oubliez pas qu'on a chaque année de plus, depuis 3 ans, 13 000 citoyens de plus, qui eux autres aussi demandent des services. »
Ça, c'est un bon point au niveau du nombre de citoyens. Parmi ce qui va être coupé également, on parle de plus de temps pour ramasser la neige. La ville veut économiser 3 millions dans des opérations de déneigement. Puis tant qu'à être dans les coûts, là, sachez que le coût de recharge aux bornes électriques va passer de 1,50 à 2 $. Le coût de stationnement sur rue de 3,25 à 3,50 $ et les frais de remorquage de 80 $ à 112 $ Et pour les propriétaires de terrains vacants, vagues, non desservis, bien, il va y avoir également une augmentation de taxes pour eux.
Oui. Donc, justement, l'augmentation de taxes des terrains vagues desservis, c'est quand même beaucoup d'argent que la ville va ramasser là. En gros, c'est des frais de taxes de base. Le gouvernement du Québec, il y a de ça quelques années, a donné droit aux villes d'augmenter jusqu'à 4 fois ça. Puis la ville de Québec l'a fait par palier, il a doublé, par la suite triplé. Et cette année, on est tombé aux 4 fois le taux de taxes de base pour ces terrains-là. C'est environ une moyenne de 5 000 $ de taxes par terrain. Toutefois, ce qu'on dit, c'est qu'il y a certains terrains qui ont vraiment des taxes excessivement élevées, là, 50 000, 100 000 $ Fait que c'est une moyenne de 5 000, mais c'est pas tous les terrains qui vont avoir 5 000 de taxes. Du côté du déneigement, là, tu l'as précisé, donc le ramassage de la neige qui pourrait un peu plus tarder, on va revoir l'efficacité, revoir comment, à quelle fréquence ces différents camions de ramassage passent. Mais pour le déblayage, on ne touche pas à ça. Et je tiens également à préciser qu'il va y avoir 700 000 $ de moins pour le projet vacances-été, donc les 4 jours. On dit que ça ne va pas nécessairement être une hausse de tarifs. J'ai bien hâte de voir tout ça. Là. On nous a dit ça.
Oh, on va sûrement couper dans les sorties à l'extérieur. Ben, là, la Ville de Québec donne un montant pour les sorties à l'extérieur pour chaque 4 jours. Donc, j'ai l'impression qu'on va garder les enfants, même le 4 jours, qu'on va faire des activités moins chérantes. Fait que le village vacances, Val-Cartier, ces trucs-là, ben les enfants devront y aller avec leurs parents. On n'a pas y aller du tout. Là. C'est ce qui va je trouve que ça serait la place la plus logique là, à couper pour ne pas augmenter le coût parce que Québec, quand même, la ville que le camp de jour coûte le moins cher. Puis ça, c'est intéressant pour les familles défavorisées, honnêtement, pour les organismes communautaires.
Juste pour finir, un dernier mot sur la dette nette consolidée qui continue de baisser. Là, on passe de 78,9% à 78,6%. Donc, pas une grosse baisse, mais quand même une légère baisse. Et également, le projet de tramway qui est enclenché à partir de cette année. Ben, qui est enclenché à partir de cette année, qui est enclenché plus vigoureusement à partir de cette année. Donc, 347 millions à partir cette année dans le projet de tramway. C'est l'une des plus grosses années. Donc, justement, on commence officiellement vraiment les gros travaux pour ce projet.
Puis, tu sais, je vais être plate, mais ça fait 2 ans que je le dis sur les ondes. Le gras à couper dans l'administration de la Ville de Québec, il y en a très peu. À l'heure actuelle, la masse salariale de la Ville de Québec est de 35,6% par rapport au budget. Une organisation, normalement, doit toujours être en bas de 40%. Donc, on est très bien positionné. La 2e des plus grandes villes au Québec en termes de positionnement de frais administratifs. À titre de comparaison, Lévis est à 44% de masse salariale. Donc, il y a vraiment un écart flagrant entre les deux villes. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Antonine et Pascal, mais moi, même si Stéphane Lachance déchire sa chemise en disant « Hey, vous voyez, il y avait du gras coupé. » Et moi, là, c'est plate. Ça fait 2 ans que j'étudie les états financiers de la ville. J'en vois pas beaucoup de gras coupé. Je trouve que le 47,5 millions qu'on fait, c'est un très bon exercice d'optimisation.
Mais tu viens de le dire, ça fait 2 ans que tu étudies les états financiers de la ville. Ce que beaucoup de gens ne feront pas. Et c'est comme une incantation en politique. Couper dans le gras, couper dans le gras. Après ça, tu te dis, oui, mais quoi et comment? Ah, vous allez voir quand je serai élu. Tu sais, c'est toujours un peu la même chose. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui vont croire Stéphane Lachance quand il va dire, ouais, voyez, il y avait plein de gras coupés.
Oh, il y a sa crowd. Ça, on ne peut pas faire changer les choses. On le voit un peu. Je trouve que la crowd de Stéphane Lachance me fait penser à celle d'Éric Duhaime ou encore à celle de Pierre Poilievre ou encore à celle que je pourrais donner des exemples. Dans ce genre de politique-là, les gens vont suivre leur personnalité politique.
Juste rajouter toutefois que j'ai reçu par communication de Stéphane Lachance justement, qui a dit que c'est le moins pire des budgets de Bruno Marchand depuis son arrivée en poste.
C'est l'effet Lachance.
Il dit qu'il lui donne une note de 6 sur 10.
Exactement.
C'est-tu un compliment de ça?
Peut-être, je sais pas. Stéphane Lachance va être avec nous demain matin, 8h20. On rappelle, le maire de Québec dans Gravel dans le retour à 16h15. 230 postes à l'heure actuelle à la Ville de Québec qui sont suspendus. On espère récupérer 23 millions avec ceci. Luc Monti nous explique, c'est quoi ces postes-là suspendus puis comment qu'on va faire ça?
Oui, mais ça va être... on ne paiera pas ces salaires-là dans l'année, mais c'est pas encore déterminé lesquels d'entre ces postes vont rester puis vont être abolis. On va s'en servir peut-être pour abolir d'autres postes l'année prochaine, mais il faut examiner chaque cas. Là. Tu figures comment... C'est quoi l'impact des...
Pour l'instant, c'est des postes vacants, donc
ça va
vous
rester
les payez
des numéros
pas.
De postes, mais non payés.
OK. Puis ça pourrait se traduire par des...
Puis là, c'est là qu'il faut faire l'examen, comment on change nos processus, puis comment on peut éviter, disons, des rembauchés, ou bien si de besoin, là...
Donc, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que 230 postes présentement qui sont laissés en suspens à la Ville de Québec, c'est-à-dire qu'on n'a pas remplacé. Si on revient à l'automne dernier, quand Bruno Marchand avait dit « je fais un gel d'embauche à la Ville de Québec ». Donc, gel d'embauche, c'était pas nécessairement de dire « j'en embauche plus », mais c'était de se poser la question à chaque fois que quelqu'un quitte. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça fait en sorte que 230 postes sont suspendus. Et là, Mathias, ce que je comprends, c'est qu'on va l'étudier de façon exhaustive et on souhaite, en bout de ligne, peut-être pas en couper 230, mais par exemple, là, je donne un exemple fictif, en couper 140 qui va nous donner 23 millions d'économies.
Oui, bien, on va étudier quel poste qu'on peut se permettre de couper puis quel poste qu'on peut ne pas se permettre de couper. Je pense que c'est la bonne manière de faire. Il y a un texto qui vient de rentrer, couper au RTC. C'est juste un dernier mot là-dessus. Ouais. Parce que le budget cette année pour le RTC, c'est 200 millions. L'an dernier, c'était 299 millions. Donc, on parle de 99 millions de moins. Ce qui est quand même une baisse de 33%. Mm-hmm. C'est énorme. En gros, c'est surtout dû au garage Newton. C'est ça l'explication
qu'on
nous a notée.
Qu'on ne construira pas finalement, en effet. Donc, dans les plans, puis on y va rapidement, plan d'investissement 2026-2035, est-ce qu'on a parlé de Saint-Roch? Parce que je ne le voyais pas dans les documents que tu m'as envoyés.
On y a fait mention à la fin, mais on a dit qu'on était encore en train de construire tout ce qui allait bâtir le projet. Mais oui, c'est dans les plans.
Parfait. Pascal Cévé, tu penses quoi du budget marchand?
Je pense que c'est une belle tablée pour commencer son mandat. Ben moi, c'est plus des gros dossiers comme le RTC, Saint-Roch, qui vont probablement me motiver à commenter un petit peu plus. Mais pour l'instant, je pense que le fait d'avoir laissé un souffle aux citoyens au niveau de la taxation, là, qu'on en dise quoi qu'on souhaite, il y a un souffle qui a été laissé et c'est la grande demande de tous les citoyens.
Exactement. Il y a Steve qui nous écrit « Tu viendras passer une journée avec moi, tu vas voir qu'il y en a du gras coupé. » Ah, ça, je le crois, Steve, il y a du gras coupé dans toutes les organisations. C'est juste qu'à l'heure actuelle, en termes de frais administratifs, la Ville de Québec se classe quand même très, très, très bien. Pascal, on a un concours avec notre application, nous autres. Hein?
Toujours.
Puis là, ça, c'est le fun, là, parce que on le rappelle. Télécharger notre application sur App Store, Google Play Store, c'est le meilleur moyen de nous écouter. Vous nous échapperez jamais. Puis en plus, avec notre nouvelle application, tu reçois un appel, tu fermes ton téléphone, pouf, Boulevard joue encore.
C'est super simple. En fait, puis elle a été conçue pour être efficace. Si tu veux texter, il y a un onglet texter. Si tu veux appeler, il y a un onglet appeler. Fait que si tu veux être le premier sur le concours, c'est par l'application que ça va le plus vite. Et on a des concours exclusifs à cette application-là. Donc, aussitôt que vous allez télécharger l'app BLVD dans le Apple Store ou Android Store de votre choix, bien, tout ce qui se passe à BLVD 102.1 est dans votre poche. Puis en plus, on a maintenant des notifications, que tu actives ou pas, mais si tu es actif, souvent, tu vas avoir des petits codes ou des indices et tu vas être le premier sur le concours. Yes. Donc, ça s'adresse uniquement aux auditeurs qui ont l'application et qui acceptent les notifications. C'est en collaboration avec Climatisation Paquette jusqu'au 9 décembre. On est le 3. Dans quelques jours, on va pouvoir faire des gagnants, mais on va envoyer un total de 6 indices via les notifications. Jusqu'au 9 décembre, il y a des notifications envoyées. Dépêchez-vous, c'est commencé. Et pour chaque indice reçu, tu vas pouvoir aller t'inscrire dans la section concours du BLVD.fm et tu vas pouvoir inscrire une fois par jour cet indice-là. Tu vas pouvoir gagner une carte de crédit de 500 $ offerte par Climatisation Paquette et ça va être annoncé le gagnant, la gagnante dans Gravel dans le retour le 10 décembre. Alors, au hasard, selon tous ceux qui ont décidé de télécharger l'app BLVD et de récolter les indices. Donc, jusqu'au 10 décembre, dépêche-toi. Climatisation Paquette qui vous offre des produits Mouvair, la marque la plus fiable selon Protégez-vous.
Oh yes! Pascal, je me permets de garder Mathias deux secondes juste pour lui faire entendre ceci.
Oui, là, on a joué de chance parce que c'est un filet complètement ouvert pour Mario. Et c'est lui encore qui a la rondelle. La remet à Sanderson. Le voilà! Écoute, on l'a laissé complètement.
Tu veux me faire mal, Jeff.
Et s'amener devant Samuel Montembeau.
Pascal.
Jake Sanderson. Porte la marque 3-1.
Défaite du Canadien hier 5-2 contre les Sénateurs d'Ottawa. Pascal, je vais laisser Mathias réagir dans quelques instants. Mais là, il faut juste que je t'explique quelque chose, OK? Le Canadien était complètement dominé. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe physique. C'est une équipe qui gagne ses batailles le long des rampes. Le Canadien est une petite équipe. Ils ont des blessures au centre. Hier, ça l'a tellement paru. Les Sénateurs étaient seuls sur la patinoire hier, Pascal. Ils se sont emparés du Centre Bell comme si c'était leur domicile. Ils ont joué au Centre Bell comme s'ils venaient d'avoir une baisse de taxes de 0,6%. C'est comme s'ils habitaient au centre-ville.
Ouais.
Ils étaient là, présents, ils étaient partout. Mathias Turcotte, as-tu vu le même match que moi?
Je tiens à préciser, oui, les Sénateurs est une grosse équipe, mais une équipe qui devrait avoir fini sa reconstruction depuis 5 ans et qui ne sont pas capables de prendre le step-up.
Ah, regarde,
sauf qu'effectivement, hier, ça n'a pas très bien été pour Montréal.
Ça, Pascal, c'est un partisan du Canadien frustré.
Écoute, non, j'ai pas fini la game hier.
T'as fait comme Max Larouche.
J'ai pas réussi à finir la game. J'ai fermé pour le bien de ma santé mentale, j'ai fermé ça avant.
Bref, le Canadien de Montréal a une chance de se reprendre dès ce soir, Pascal CV, parce qu'ils reçoivent les Jets de Winnipeg au Centre Bell. Les Jets ont 2 victoires et 5 revers depuis la blessure de leur excellent gardien de but, Connor Hellebuyck. Donc voilà une chance en or pour le Canadien de se reprendre. C'est Jacob Dobesch qui va être devant le filet. C'était Sam Montembeau hier. Il a encore eu des difficultés, malheureusement, notre Québécois. Après la pause, on parle avec Lambert Drainville. On va revenir sur Mark Miller, ce nouveau ministre de la Culture qui se fout de la langue française. On va bien, hein, Pascal? Mark Carney prend soin de nous autres. Hein? Let's go! La langue française, c'est pas grave, elle n'est pas en déclin au Québec. Puis on va parler d'un dossier super important. Puis là, je suis sûr que ça va t'allumer, Pascal CV. Le droit à l'avortement.
Oui.
Parce qu'il y a plusieurs juristes qui disent à Simon Jolin Barrette, mets pas ça dans la Constitution, parce que si la Constitution se fait battre, on pourrait perdre ce droit-là. Lambert Drainville veut nous en parler. Ça m'inquiète beaucoup. Puis je suis un homme de 46 ans.
Oui, puis je pense qu'il faut absolument s'en inquiéter ou du moins s'en intéresser parce que récemment, Léa Clermont-Dillon a pris la parole là-dessus en parlant aussi de la montée du masculiniste et des propos masculinistes.
Oui.
Et dans la frange des 25-35 ans, il y a plus de la moitié des hommes qui qualifient les propos d'Andrew Tate comme étant positifs. Alors, il faut quand même toujours travailler en amont sur certaines tendances et je pense que celle-ci, il ne faut pas y toucher. Qu'on soit biaisé ou pas selon votre vision des valeurs, on ne touche pas à ça.
Tu as entièrement raison. Donc, c'est ce qui suit à l'instant même à On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14 h. On en jase.
Merci pour vos excellentes rétroactions par texto au 418-971-1021. On les apprécie énormément. Lambert Drainville va être avec nous dans quelques minutes. Mais avant, Pascal, outre Pablo Rodriguez qui chute dans les sondages, outre Bruno Marchand qui nous a menti. Oui, c'est 1,9%, mais c'est 3% pour plusieurs gens dans la ville de Québec. Outre France-Hélène Duranceau qui nous a dit « M'a coupé 5000 postes, mais je sais pas comment. »
Mais là, laisse-moi ça un peu, là.
On est rendu où dans l'actualité?
Mais clairement, on va le nommer. Québec veut supprimer l'équivalent de 5000 postes dans la fonction publique d'ici 2027, mais on sait pas encore où, quand, comment, pourquoi. On sait que c'est une annonce du Conseil du Trésor et donc de France-Hélène Duranceau qui en est la présidente. Sinon, le docteur Amir Kadir qui a radié 6 mois maladie de Lyme. En fait, il a plaidé coupable à 12 chefs d'accusation en octobre dernier, rappelez-vous. Il a été radié par le Collège des médecins parce qu'il a fait des traitements controversés pour la maladie de Lyme. Et il y a l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne qui avait plaidé coupable à 12 chefs d'infraction avec le microbiologiste infectiologue qui était présent là. Donc, devant le conseil de discipline, le 28 octobre dernier, c'est là où on lui a reproché d'avoir offert divers traitements antibiotiques. C'est des traitements, en fait, de longue durée, plus de 4 mois aussi pour de nombreux patients. Et plusieurs étaient malades aussi, puis ils ne savaient pas trop où se diriger par rapport à cette maladie-là. Et on dit que c'était des patients vulnérables. Par contre, ça fait beaucoup réagir là, quand on regarde un peu partout. C'est qu'il y a des traitements qui existent, mais beaucoup aux États-Unis. Alors, c'est-tu pour ça qu'on a décidé du côté du docteur Kadir d'aller de l'avant dans tout ça?
Dans l'expérimental, entre guillemets?
Si on veut, parce qu'effectivement, bon, c'est pas quelque chose qui était clairement écrit dans les livres de la médecine, mais bon, le spécialiste avait donné des exemples de ces patients désespérés qui ont pris du mieux après les traitements antibiotiques prolongés. C'est particulier comme dossier, mais c'est ce qui se passe actuellement pour le docteur Amir Kadir. Sinon, fermeture de clinique médicale, on en a parlé ensemble la semaine dernière.
Hey, ça, là, je te lève mon chapeau et je lève devant tous les auditeurs. Crime que t'étais sa coche parce que tu nous en as parlé 4-5 jours avant que ça sorte dans les autres médias. Pascal CV, gars, je te fais un fist bump. Good job!
C'est fait, mais c'est parce que c'est inquiétant quand même. Là. Des groupes de médecine familiale qui ne peuvent pas continuer à payer les frais, en fait. Le groupe aussi de médecine ici qui s'occupe de tout ce qui est suivi de grossesse et qui regroupe bien des suivis même en région. Et on est déjà submergé. Ça fait des années qu'on le roule. Là, on commence à tirer la sonnette, puis pas à peu près, parce qu'on dit ce projet de loi 2 pour le projet Christian Dubé renforce les grosses lacunes, les problématiques au niveau de la santé. Et le ministre de la Santé a réagi à la fermeture annoncée de dizaines de cliniques de médecine familiale en raison de l'adoption sous bâillon de la loi 2. Et il dit peut-être qu'on pourrait faire certains changements, mais comme tu vois, ça passe pas nécessairement très facilement.
En effet.
Et je termine avec Air Transat. Il y a des pilotes qui ont voté massivement en faveur d'un mandat de grève. Donc, on a voté pour tout ça qui pourrait être mis à exécution à compter du 10 décembre.
Vous mentionnez également que le dossier en itinérance qu'on a fait hier, Pascal, avec les vidéos de cet individu qui se promène à Québec, qui filme des itinérants sans leur consentement et qui leur remet des joints de potes et de l'alcool, bien, Novo TV va faire un suivi ce soir dans leur téléjournal. Donc, si vous voulez suivre le tout, on est très content d'être les premiers sur la nouvelle. Fait qu'à Boulevard, on peut dire à l'émission On en jase, Pascal CV, vous allez être les premiers sur la nouvelle.
Oui!
Ah, c'est un beau slogan, ça. On en jase.
On en jase.
Premier sur la nouvelle. Et parlant de gars compétents dans la nouvelle et qui a des informations privilégiées un peu partout sur la scène politique, on s'en va rejoindre Lambert de Rainville, vulgarisateur d'actualité. Lambert, comment vas-tu?
Allô, bien content d'être avec vous autres comme à chaque fois.
Ah, moi aussi, Lambert, c'est toujours un bonheur de t'avoir à notre émission On en jase. Lambert, on va enchaîner 2 extraits pour commencer ta chronique. Le premier extrait, Mark Miller qui dit « on a le débat autour du français, je suis donc bien tanné de ça ». Et le deuxième, c'est François Legault qui ne mâche pas ses mots envers Mark Miller. Donc, je nous fais écouter ça et par la suite, on commente.
Ce que je déplore...
Bon, Lambert, Pascal, vous allez être d'accord avec moi? On a enfin retrouvé notre premier ministre. Il fallait parler de langue. Il s'est fâché. Il nous a défendu. J'ai senti François Legault de 2018 hier. Wow!
Est-ce qu'on l'a retrouvé ou on a juste appuyé sur sa petite fibre souverainiste c'est de protection du français?
Un passage.
Ouais, c'est ça. Écoute, c'est tout un début quand même hein, pour Mark Miller, fraîchement nommé. Lui qui avait été tellement déçu de ne pas être nommé dans le plus récent cabinet ministériel de Mark Carney, qui avait préféré l'écarter. Finalement, bon, un peu pris les culottes baissées par la démission de Stephen Guilbeault, doit se trouver nécessairement là, quelqu'un au Québec pour prendre ce poste-là. Mmh. Et choisit le gars qui avait précédemment décidé d'écarter. Il dit, garde mon gars, je te rappelle, je te ramène au cabinet, je te donne une nouvelle chance. Hey, jour 1.
C'est crédible, ça, là, c'est crédible.
C'est
la
pro... Hein?
C'est crédible, parce que je t'entendrais, ça me donne un peu ma réponse.
Non, mais écoute, c'est la première question. Chaque ministre responsable des langues officielles au niveau fédéral, la première question que tu vas te faire demander quand tu rentres dans ce poste-là, ça a été vrai pour les 3, 4, 5, 6 derniers ministres des langues officielles au Canada, est-ce que vous considérez que le français est en déclin? Et malheureusement, il n'a pas passé son test. Écoute, on va y aller, JF, avec quelques chiffres, OK, que j'ai tirés de Statistique Canada.
Vas-y!
C'est les chiffres du fédéral, c'est leur propre chiffre, OK? Langue parlée à la maison. 79% de la population parlait principalement le français en 2021. Il était 85% en 2001, donc une perte de 6 points en 20 ans pour la langue parlée à la maison. L'Institut de la statistique du Québec projette que ça va baisser sous les 75% d'ici 2036. Langue parlée au travail. Le français au travail est passé de 81% à 79%. Et à Montréal, spécifiquement, c'est moins de 60% aujourd'hui qui disent utiliser le français le plus souvent au travail.
Et hey, puis Lambert, hier, là, j'ai lu que 34% des commerces offrent un service uniquement en anglais la fin de semaine à Montréal.
Ben tu vois, dans les commerces montréalais, 63% des employés abordent spontanément les clients en français. 63%, ça veut dire qu'il y en a 37% qui abordent dans une autre langue. Mm-hmm. C'est une perte de 12 points dans les 10 dernières années. J'ai la langue maternelle, fait que la langue des gens au quotidien. Le français comme langue maternelle est en baisse. Chez les nouveaux arrivants, il y a de moins en moins de nouveaux arrivants qui sont capables de maintenir une conversation en français. Chez les allophones, donc ceux qui arrivent ici, qui ne maîtrisent pas le français ou l'anglais en arrivant, qui maîtrisent une langue tierce, eh bien, un allophone avait presque autant de chances d'adopter l'anglais que le français comme langue d'usage en arrivant ici. Et chez les plus jeunes, les 18-34, dans le Grand Montréal, l'usage de l'anglais au travail dépasse maintenant 37%. C'est 10% de plus qu'en 2001.
Puis je ne veux pas...
Ça, JF, c'est un recul total, Pascal?
Oui, Lambert, parce que je ne veux pas même confronter ce sondage-là, mais j'ai l'impression que c'est plus que ça. C'est peu. Le 30-quelques%, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça. Mm-hmm. D'utilisation de langue anglaise du côté de Montréal au travail. Nombreux sont mes amis qui travaillent dans un emploi qui est supposément francophone, mais qui utilisent tellement l'anglais au quotidien.
Ben voilà. Je pense que les chiffres sont têtus. Je pense que je viens d'en faire une liste assez exhaustive. Et n'importe qui vit à Montréal comme moi, qui est un francophone à Montréal, s'en rend bien compte. Mark Miller est un élu de quelle région déjà, Jeff?
Ah, vas-y donc.
La région de Montréal.
Ben oui, mais des comtés anglophones.
Ouais, ben c'est un gars qui vit au Québec depuis toujours, il devrait savoir ça.
Ben oui.
Alors, est-ce que c'est un recul total? Il dit que ça n'en est pas un, mais ça en est clairement un. Et ce n'est pas par démagogie ou par catéchisme, comme il mentionne, que les partis politiques au Québec tentent par tous les moyens de renforcer la protection de notre langue. C'est parce que c'est un enjeu qui est important aux yeux des Québécois. Le français, c'est le socle de qui on est comme peuple, c'est le socle de notre nation, c'est le socle de notre culture. Il est tanné de ce débat, lui. Eh bien, malheureusement, les Québécois, eux, ne sont pas tannés et veulent continuer de protéger leur langue, étant entourés d'une marée d'anglophones de tous les côtés. Je vais lever mon chapeau à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a dénoncé ce qu'il disait l'aplavantrisme d'une partie substantielle du milieu culturel québécois. Il y avait des industries, l'Association québécoise de la production médiatique et la Société des auteurs de radio, télévision, cinéma, qui ont salué la nomination de Mark Miller. Je trouvais ça un petit peu spécial.
Oui, on tentait de garder nos subventions.
Oui, c'est ça. Il y a certainement un peu de ça. Mais considérant, comme je disais, que le français est le socle de la culture au Québec, de voir des acteurs importants de l'industrie culturelle au Québec saluer sa nomination alors que ce n'est pas la première fois qu'il manque de sensibilité envers le cas français, je trouvais que c'était très, très gênant. Mm-hmm. Et c'est exactement ce que PSPP a dénoncé sur ses médias sociaux. Alors, je salue ça, je salue qu'il le mentionne. Puis là, pour la suite, ben Mark Carney, on s'en est parlé un peu vendredi avec sa décision.
Ouais, là, Lambert, c'est là la question que j'avais pour toi. Là. Vendredi, on se parlait du pipeline en Alberta qui faisait pas l'affaire ici au Québec et du Bloc québécois. Puis là, aujourd'hui, on se reparle encore de Mark Carney. Puis on dit, coudonc, Mark Carney est en train de l'échapper au Québec avec Mark Miller comme ministre de la Culture. Va pas bien pour Mark Carney. Pourtant, c'est le Québec qui l'a mis à l'avant-plan, qui l'a mis comme premier ministre.
Mais c'est ça la chose. Puis c'est louable, on s'en était parlé vendredi. C'est louable si lui, il dit, garde, moi, c'est pas par calcul politique que j'ai envie de travailler sur un projet de pipeline qui passe de l'Alberta à la Colombie-Britannique. C'est pas par calcul politique que je vais nommer Mark Miller. À un moment donné, je veux bien là, que tu mettes que ce soit secondaire pour toi le calcul politique, mais tu gouvernes un gouvernement majoritaire. T'as deux députés de plus. Que si tu additionnes tous les autres partis ensemble, la durée de vie d'un gouvernement minoritaire est entre 12 et 18 mois. Généralement, ça fait déjà 7 mois qu'il est là, donc on peut s'attendre à une élection possiblement dans la prochaine année, donc nécessairement dans les prochains mois. Comme tu le disais, il doit une grande partie de sa victoire à des électeurs au Québec et à des électeurs en Colombie-Britannique. Et là, on est toujours en attente là, d'un premier geste de sa part, là, après 8 mois, qui va démontrer que le premier ministre a une sensibilité envers les Québécois ou encore le français. Il n'est pas capable d'enchaîner deux phrases d'affilée en français comme il faut. Tu sais qu'il a donné juste une entrevue hein, jusqu'à maintenant, en 8 mois.
C'est vrai, en français, tu as raison. Non, ça, honnêtement, là, ça va vraiment pas bien pour lui présentement au Québec. Et moi, je suis extrêmement déçu. 418-971-1021, si vous êtes déçu comme moi, mais je suis extrêmement déçu de Mark Carney du Parti libéral à l'heure actuelle.
Ben, je veux dire, on peut, tu sais, bon, toi, tu peux être déçu. Je pense que les gens qui vont voir d'un bon œil tous les gestes qu'ils posent au niveau des grands projets, au niveau des l'augmentation des dépenses en défense, je pense qu'il y a des gens qui cautionnent plusieurs de ces politiques. Mais encore une fois, pour mettre en place ces politiques-là qui vont prendre plusieurs années à mettre de l'avant, il faut qu'ils restent au pouvoir. Il faut qu'il reste au pouvoir. Fait qu'encore une fois, je reviens à mon point initial de dire, ben là, à un moment donné, je veux bien que tu réfléchis, tu ne poses pas des gestes en fonction de calculs politiques, mais il va falloir que tu t'arranges pour garder tes appuis qui t'ont amené là, parce que si tu te retrouves à ne plus être là, ben ça va être difficile pour toi là, de faire avancer tes projets. Là.
Lambert, il y a quelque chose qui fait énormément réagir à chaque fois qu'on en parle, puis j'ai l'impression qu'on veut travailler en amont sur le dossier, avec tout ce qui se passe actuellement, puis les conversations, puis la prise de parole. La dernière, en fait, de Léa Clermont-Dion aussi était très importante dans le projet dans lequel elle se lance. Mais pour le politique, c'est Simon Jolin-Barrette qui devrait retirer l'avortement de la loi sur la Constitution. Tu as quelque chose à dire là-dessus, toi?
Oui, bien, je le ferai, moi. Je la retirerai, l'article 29 de son projet de loi là, de Constitution qui dit que l'État protège la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est bien louable. L'intention est bonne. On a compris que c'était une valeur qui était importante pour le gouvernement. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est une valeur qui est importante pour les Québécois en général. Mais là, tu as plusieurs groupes de défense. Tu as le barreau, tu as le Collège des médecins, tu as une lettre ouverte dans le Devoir qui est signée par plus de 400 signataires, dont essentiellement des médecins, qui lui demandent de ne pas légiférer au sujet de l'avortement. Ce qu'ils disent au fond, c'est que ça va donner une cible, ça va donner une cible juridique. Présentement, il n'y a aucune loi, ni provinciale ni fédérale, qui rend l'accès le plus solide possible sur le plan juridique. Parce que c'est pas nécessaire. Ce flou-là autour de l'avortement, si on se fie au légiste, c'est le meilleur bouclier dont peut bénéficier l'accès à l'avortement. Et en légiférant, ben, le Québec créerait de toute pièce une loi qui pourrait par la suite être attaquée sur la base des droits fondamentaux par des groupes anti-choix ou encore des groupes religieux pour restreindre l'avortement. Alors, il y a déjà d'ailleurs des groupes religieux ailleurs dans le Canada qui regardent ce qui se fait au Québec et qui semblent se frotter les mains par rapport à ce désir du gouvernement de légiférer à ce niveau-là. Alors, si l'avortement, selon les différents groupes qui ont pris parole là-dessus, est mieux protégé par l'absence d'une loi, ben enlevons-le de la loi. Là,
t'sais, vraiment. Gardons le flou autour de l'avortement pour protéger le droit à l'avortement, c'est ce que je comprends.
Exact. Puis, tu sais, Il s'était fait reprocher en déposant son projet de constitution de ne pas avoir assez consulté en amont et répondait à ça, bon, qu'il avait consulté les premiers ministres, qu'il avait consulté un paquet de monde de la société civile. Il répondait aussi qu'il serait à l'écoute, qu'il allait avoir des consultations sur le projet de loi et qu'au besoin, ben, il serait ouvert à améliorer son projet de loi. Et ben, je pense que c'est là une belle occasion pour lui de montrer qu'il peut être à l'écoute. Il a répété aussi qu'il était confiant de rallier les autres partis pour qu'ils votent en faveur de son projet de constitution. Pour l'instant, il n'y a aucun des partis qui dit l'appuyer. Ce serait encore une fois une belle façon de démontrer qu'il est à l'écoute, considérant que les trois partis d'opposition ont également demandé à ce qu'il retire cette clause-là. Ben, qu'il démontre à ces partis-là qu'effectivement, il est prêt à travailler en équipe. Et comme il le dit lui-même, que ce n'est pas une constitution caquiste, mais c'est une constitution québécoise qu'il met en place. Alors moi, je pense que c'est un combat qu'il n'est pas obligé de mener jusqu'au bout. Je pense que ce serait une belle option pour lui là, de démontrer qu'il peut faire preuve d'ouverture. Puis après ça, ben, il peut se concentrer sur le reste.
Est-ce que ça peut être mal vu de part et d'autre? Parce que c'est autant un débat qui est difficile, qui est sensible, qui est... T'sais, est-ce que vraiment quelqu'un peut s'opposer à ça dans les droits moraux, modernes, la façon de parler de tout ça? T'sais, je m'en vais pas dans l'extrême conservateur ou religieux ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu crois que certains partis, mis à part ceux plus conservateurs, pourraient s'opposer à une façon de faire comme celle qu'on décrit en ce moment?
Non. Non.
Tout simplement.
C'est pas plus compliqué que ça. Non, non, mais ce serait suicidaire. Au Québec particulièrement, au Québec particulièrement, n'importe quel parti qui s'aventure sur ce terrain-là de restreindre l'accès, que ce soit aux soins, que ce soit aux cliniques, aux services pour les femmes en situation de vulnérabilité, c'est une patate chaude que personne ne va s'embarquer sur ce terrain-là. Puis au Canada, c'est pas mal la même affaire, là, si ce n'est, comme tu disais, de quelques groupes plus conservateurs dans l'ouest du pays. Et c'est ça le point principal. C'est exactement ça le point principal. Au Canada, il n'y a personne. T'sais, politiquement, c'est suicidaire que de s'aventurer sur ce terrain-là. Mm-hmm. Alors, gardons ça comme ça. N'allons pas plus loin en légiférant, parce qu'à ce moment-là, ben, ça ne deviendrait plus... alors que présentement, on joue sur une seule et unique route, c'est-à-dire la route politique, eh bien là, on viendrait ouvrir un deuxième canal, qui serait le canal légal. Et c'est cette voie-là qu'emprunteraient les groupes qui souhaiteraient restreindre l'avortement. Et c'est ça, dans le fond, que les différents groupes de défense des femmes dénoncent. Encore une fois, n'allons pas là et faisons preuve de gros bon sens.
Faut carrément l'éviter. Lambert, je termine cette excellente chronique que tu fais avec nous à chaque mercredi aux alentours de 13h en te posant la question suivante. Est-ce qu'on va assister à deux courses à la chefferie au retour des fêtes, c'est-à-dire au Parti libéral avec Pablo Rodriguez qui frappe à 17 % d'approbation dans la population québécoise et qui perd des points de façon phénoménale avec moins 6 % dans le sondage au général, mais qui il est rendu à peu près à 14 % au niveau du vote francophone. Et François Legault va-t-il continuer à s'accrocher malgré un maigre 18 % face à la débandade libérale?
On se porte-tu un pool?
Oui!
On se porte un pool.
J'aime ça!
Ben, OK, on va faire deux questions.
Excellent!
Lequel des deux part en premier? Puis jusqu'à quand Pablo va-t-il être chef du Parti libéral? Ouf. OK? Moi, je parie. Moi, je vous dis que Pablo est plus chef du parti d'ici à la Saint-Valentin. Qui dit mieux?
OK, tu dis à la Saint-Valentin.
Ah, pourquoi la Saint-Valentin? Pablo.
Ben parce que l'histoire d'amour va être terminée. Ah. Tu veux pas faire de cadeaux à Saint-Valentin, quelqu'un t'aime plus?
Oui, puis c'est surtout que... Oui, bon point, puis c'est surtout que le rapport d'enquête sort le 31 janvier.
C'est vrai. Okay. C'est bon. Fait que toi, tu y vas à la Saint-Valentin. Ben moi, gars, je vais te devancer. Je vais dire le 4 février, compte tenu que le rapport sort le 31 janvier. Ça va être un rapport dévastateur.
Le 4 février.
Bon, mais c'est sûr que moi, ça joue là, la petite information supplémentaire que tu nous as donnée. Fait qu'on va y aller avec février aussi. Je vais y aller un petit peu après, moi, la Saint-Valentin, juste pour changer ce que vous avez offert. Oui, c'est ça.
Parfait. François Legault, Pascal CV, vas-y en premier, là, vu qu'on t'a mis un peu de bâton dans les roues.
Ouais, moi, j'aimerais ça qu'en 1er janvier, au retour à l'Assemblée nationale, ça soit une annonce officielle qui va...
Comme Justin Trudeau, le 6 janvier, ça tombe le 5, le lundi 5. Toi, tu y vas avec ça?
Oui, j'aimerais ça.
Lambert Drinville, François Legault.
Je pense qu'il n'est plus là, moi, d'ici la relâche.
Mars.
OK. Mars, à la relâche. Moi, je pense que François Legault...
Là, on parle d'une annonce ou il n'est plus là, il n'est plus là, là?
François Legault...
Du moment qu'il fait une annonce, du moment qu'il fait une annonce...
Oui, c'est ça, là. Du moment qu'il fait une annonce, qu'il dit « J'annonce une course à la chefferie, tout ça. » Pascal, il va directement après les fêtes. Moi, je vais me situer entre les deux. François Legault va partir à la mi-janvier, aux alentours du 15 janvier.
Considérant que lui, il se dit qu'il s'accroche, il s'accroche.
C'est ça. Mais là, tu sais, on doit reprendre les travaux de l'Assemblée nationale. Et là, j'ai pas le calendrier devant moi, mais on doit reprendre aux alentours du 20-quelques janvier. Donc, il va faire une sortie avant pour dire « Écoutez, je cède ma place. »
Ouais.
C'est un bon pool, ça.
Oui, c'est un bon pool. Moi, j'ai hâte de voir parce que c'est drôle parce que j'ai vécu, puis là, c'est rare que je parle de mes affaires personnelles, mais j'ai vécu, tu sais, j'ai fréquenté quelqu'un pendant plusieurs mois cet été et c'était vraiment le fun. Tu sais, l'été était magnifique, c'était les papillons, tout ça. Puis là, l'année a commencé, puis ça faisait comme plusieurs mois qu'on se voyait. Puis là, tu sais, tranquillement, comme tu deviens à l'aise avec l'autre personne, puis là, certaines facettes de sa personnalité peut-être. Cachée, ou en tout cas qu'elle avait peut-être mis beau dans les premiers mois, transparaissent, tu sais. Puis là, tu fais comme OK, là, puis là, tu te rends compte un petit peu plus du type de personne que t'as. J'ai comme un peu cette impression-là avec le Parti libéral. Oui. Tu sais, que t'as tout beau, Pablo, il est là, le Parti libéral est de retour dans possiblement un poste où ils vont pouvoir menacer la CAQ et devenir le gouvernement en attente. Et là, ben écoute, on se rend compte dans les dernières semaines que. Qu'est-ce que tu veux? Pablo Rodriguez, c'est une brique après l'autre. Son leadership, c'est absolument désastreux. Tu sais, s'il y a des textos qui coulent comme ça à chaque semaine, quasiment, là, c'est qu'il y a des gens quelque part qui font couler des choses. Là, mm-hmm. Des gens quelque part qui veulent pas là, que ce gars-là réussisse. Gestion de crise, c'est extrêmement difficile. Là, il met dehors Marois Risky. Tu sais, il déclenche une enquête pour savoir ce qui s'est passé entre Marois Risky et Geneviève Hince. Puis avant même d'avoir le résultat des enquêtes, finalement, il met Marois dehors puis il ramène Geneviève Hince. Laisse-moi te dire que si ces enquêtes-là disent que c'est Marois qui avait raison, puis Geneviève Hince qui était dans le tort, là.
Il est dans le trouble.
Il est dans le trouble. Fait que là. Yes. Écoute, est-ce qu'il existe un scénario où Pablo sort de là indemne? Moi, je pense que non. Est-ce qu'il existe un scénario où les pots se réparent à 100%? Moi, je pense que non. Est-ce qu'il existe un scénario où Pablo peut avoir assez de poigne pour garder tout le monde serré? Ça semble pas.
Non.
Alors, tu fais quoi dans ce contexte-là? Là?
Tu remplaces le chef.
Ben, c'est un peu comme mon histoire de fréquentation. Tu sais, est-ce que tu t'embarques? Est-ce que tu t'embarques dans quelque chose que tu es là? Finalement, je suis pas sûr que je me vois avec cette personne-là sur le long terme.
Mais non.
Si tu ne te vois pas avec cette personne-là sur le long terme, tu es peut-être mieux de dire ben, on va tirer sa plug tout de suite, puis on va s'éviter des semaines et des mois de travailler dans le beurre à bâtir quelque chose qui n'a pas de fondation solide. Moi, je pense que tu tires sa plug le plus vite possible, puis tu essaies de te trouver un nouveau partenaire.
T'as tellement raison. Le Parti libéral va retomber en amour avec quelqu'un d'autre, Pascal CV. C'est-tu pas beau? Lambert Drainville, merci. Toujours pertinent tes chroniques. On t'adore, mon chum.
C'est réciproque. Hey, cool. Je suis pas là vendredi, malheureusement.
Oui, je
sais.
Moi non mais plus, je ne suis pas là vendredi. Alors, ça sera un tête-à-tête Pascal CV, Farnell Morisset. Oui. Et ratez pas ça.
On va écouter ça.
Ça va être l'enfer. Ils vont chicaner. Non, je pense pas. Alors, c'était Lambert Drainville que vous entendez à chaque mercredi avec nous et à chaque également vendredi, normalement, débat avec Farnell Morisset, mais qui n'aura pas lieu cette semaine en raison d'une absence de Lambert. Avant qu'on passe à la pause, Pascal, et qu'on ait rejoint Alicia Despins, ancienne conseillère municipale, qui va nous donner son appréciation du budget. Demain matin, il y a de quoi de le fun qui se passe?
La guignolée des médias. Quelle journée extraordinaire. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on ramasse des sous et on va dans les rues. On va vous attendre. Alors, préparez vos petits 5 piastres, vos 1 piastre, vos 2 piastres. Et en passant, si vous donnez 10, 20 ou 50, je vous donne exactement ce que ça vaut pour Moisson Québec, OK? Moisson Québec redistribue 5 repas aux personnes dans le besoin. 10 $, c'est un panier alimentaire pour 2 personnes. 20 $, c'est une semaine d'épicerie pour une famille. Et 50 $, c'est 250 repas pour ceux qui en ont besoin. Donc, demain, on sera à l'intersection Lormière et Blain. C'est entre Johnny Parent et Chauveau. Il y a un Tim Hortons au coin, là, un McDo à côté. Bon, vous venez de le situer, là. Et vous direz salut à notre équipe de Leclerc Communication parce qu'on va être là de 7h à 9h. Donc, chaque dollar reçu compte. Puis la guignolée des médias, c'est pas seulement une journée, mais c'est tout au long du temps des fêtes. Donc, on vous invite, si vous n'avez pas d'argent demain ou quoi que ce soit, vous oubliez, à faire un petit don à moissonquebec.com ou en textant Noël au 20-222. Un don de 10 $ automatiquement en textant au 20-222. 2-2-2. Mais ce serait le fun de voir à l'intersection demain, tellement. Intersection Lormière et Blain, entre Johnny Parent et Chauveau.
Allez-y, gang, en grand nombre, c'est la guignolée des médias qui commence à nourrir les gens en situation de défavorisation. Et c'est tellement important. Éric Boulay, ce matin, de l'Aube-Rivière, nous disait « Hey, Moisson-Québec, là, ça me fournit plus de la moitié de ma bouffe que je distribue à l'année aux personnes itinérantes qui sont en ville. » Donc, c'est tellement un organisme important.
Bon, ben imaginez à quel point ça peut changer. Puis des vies, des tablis, les familles aussi. Il faut savoir, c'est des enfants qui vont avoir le ventre plein pour aller à l'école.
Oui, courte pause!
Juste avant, service de police de la Ville de Québec qui a procédé ce matin à l'arrestation du suspect recherché en lien avec la violente agression survenue au McDonald's de la rue Saint-Jean. Donc, dans la nuit du 30 novembre dernier, on a mis la main sur un homme de 31 ans dans le secteur du Vieux-Port de Québec. Maintenant, il fait face à des accusations de voies de fait graves et aussi a été appréhendé en vertu d'un mandat d'arrestation. Il est actuellement détenu, doit comparaître au cours de la journée au Palais de justice de Québec.
Excellente nouvelle judiciaire. Merci beaucoup, Pascal CV. On fait une courte pause par la suite. Alicia Despins, ancienne conseillère municipale, va être avec nous. Elle va justement nous donner son appréciation du budget Marchand, le premier budget de cette ère numéro 2 de Bruno Marchand. Ça va aller mieux, je chauffe les micros, hein, Pascal? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis tellement énervé. À la météo, je suis pas énervé pantoute par la météo parce que c'est moins 9 degrés à l'heure actuelle, ressenti moins 15. Moins 5 degrés demain, averse de neige, parfois forte, donc préparez-vous. Puis Pascal, c'est toi qui m'as dit cette semaine, hein, quand il fait soleil en hiver, il fait fret.
Exactement, c'est le meilleur truc qu'on peut donner.
Voilà. Ben, il va faire soleil vendredi, fait que tu penses qu'il va faire quoi?
Habillez-vous, sûrement moins 15.
Et tu frappes dans le mille, c'est moins 13 degrés vendredi. On s'en va de ce fort rejoindre Alicia Despins, ex-conseillère municipale pour Vanier du Berger à la Ville de Québec. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. T'es-tu en train de me dire qu'il va peut-être faire plus chaud en Abitibi qu'à Québec vendredi?
Ben, peut-être. Il annonce quoi à Val-d'Or vendredi, Grim?
Je sais pas, je vais aller voir ça, mais il me semble qu'on a une belle semaine. Une belle semaine pour faire de la raquette et du ski de fond.
Va tout falloir déménager à Val-d'Or, Pascal.
Non, je penserais pas.
Non? OK. Non. Bon, on s'annule.
Rien contre Val-d'Or, mais je suis bien à Québec.
Ouais, moi aussi, je suis très, très bien à Québec. Alicia, premier budget de l'ère numéro 2 du deuxième mandat de Bruno Marchand. C'était sorti dans les médias. Hausse moyenne de taxes de 1,9% pour le résidentiel. Là, on comprend que dans certaines parties de la ville, c'est 3%. On vient tout harmoniser pour l'an prochain. Ça va être fini de payer les vieilles dettes. T'en penses quoi du budget Marchand?
Bien là, c'est sûr que ce qu'on a accès en ce moment, là, c'est les 5 communiqués, là, parce que c'est quand même, tu sais, on a 2 milliards là, à peu près, là, bon an, mal an, là, à la Ville de Québec. Fait que c'est 5 communiqués de presse différentes, la conférence de presse du maire, etc. On n'a pas encore accès là, aux fins détails. Fait que là, ce dont on a accès en ce moment, c'est juste les points de communication là, que l'équipe Marchand veut nous mettre de l'avant. Puis évidemment, bien, ce qui ressort de ces points de communication-là, c'est que c'est un budget qui est rigoureux, qui est responsable, qui enlève un poids là, sur les citoyens et qui est en concordance là, avec le cadre financier de la Ville de Québec. Donc, on continue là, sur une bonne lancée d'un point de vue financier. Là, ça va être intéressant de voir comment la Ville se compare. Là, je pense que Québec va faire des jaloux. Là, 1,9% de hausse là, pour le résidentiel, 1,4% pour le commercial. Je suis pas certaine que les villes voisines vont être capables là, d'avoir des hausses de taxes aussi basses que ça.
Surtout les villes.
Surtout les villes, c'est ça exactement. Ça va être intéressant de voir comment Québec se compare. Puis moi, je suis certaine là, qu'à quand les budgets là, de Longueuil, Laval, Montréal vont sortir, M. Marchand va être très, très, très content là, d'annoncer que il a probablement la hausse de taxes la plus basse là, au Québec. Des villes comparables, disons. Là.
Et justement, donc ça va donner du gaz politique à Bruno Marchand. Il vient d'y aller avec une très forte majorité lors de l'élection. Y a-t-il un risque que ça glisse?
Il y a tout en main là, pour que ça ne glisse pas. Et après ça, on l'a vu là, dans d'autres contextes politiques où finalement, dans le contexte dans lequel M. Marchand se trouve, le risque est plus à l'interne. Là. Fait qu'il ne faut pas que lui l'échappe parce qu'en ce moment, il y a tout en main pour que ça se passe bien. Parce qu'il a réussi quand même à pondre un budget super intéressant dans un contexte qui n'est pas facile. On le sait, tout coûte plus cher. M. Marchand l'a dit aussi, l'incertitude là, avec les États-Unis qui rajoute là, une couche là, de complexité. Le Québec fait face à une faible croissance économique pour lequel la Ville de Québec n'est pas nécessairement confrontée. Donc, d'avoir ce budget-là qui garde le cap, d'avoir une diminution de la dette pour une 11e année consécutive, c'est pas évident. Bon, ça vient avec quand même des coupes. Faut en parler. Le risque que ça glisse, pour répondre à ta question, c'est de voir où on va couper. Fait que là, l'administration Marchand dit on va couper par attrition probablement 60 postes, mais il y en a seulement une vingtaine de ces postes-là qui sont identifiés. Donc, à quel endroit on va couper? Est-ce que ça va toucher des services? Ça va être important. Mes autres petits points là, de vigilance, le ramassage de la neige. On veut couper 3 millions de dollars en ramassant sur une plus longue période de temps la neige. On le sait, c'est un irritant majeur pour les citoyens de la Ville de Québec. Les gens qui sont davantage là, en banlieue, quand ils ont de la neige là, pendant des jours et des jours, ça fait pas le bonheur de tous.
Puis c'était déjà controversé beaucoup et très, très, très décrié la manière dont ça se faisait. Donc, avec moins de moyens, moins d'argent, est-ce qu'on réussira à offrir un meilleur service?
C'est ça. Puis là, ben, on a des coupes quand même importantes. Là. Monsieur Marchand fait peut-être allusion au fait qu'on pourrait couper 4 à 5 patinoires qui sont peu utilisées. Peut-être que ça fait du sens là, d'un point de vue de la ville en général. Par contre, c'est sûr que les personnes qui utilisent ces patinoires-là, ils risquent d'être très déçus par ces coupes-là. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à ça, des petites, je mets ça en parenthèse, des petites coupes ici et là à travers la ville qui vont assurément faire des déçus, mais overall, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un budget qui se tient. Là.
Je pense que pour les patinoires, tu sais, Jeff, toi, je pense que t'es plus en mesure de commenter comme utilisateur-payeur. Moi, j'ai pas d'enfant, puis je m'en vais pas sur les patinoires des quartiers. Puis Alicia, toi, t'as tout le côté d'avoir été au sein d'un regroupement de la ville, puis de voir un peu qu'est-ce que les gens te disaient pour ces points-là. Mais quand vient le temps de couper dans le gravy, je dis pas de fermer une patinoire, c'est du gravy. Mais quand même, quand au niveau finance, bon, il y a d'autres choix dans la ville de Québec, puis l'entretien d'une patinoire, c'est ce que ça... Je pense que c'est beaucoup mieux de faire ça que d'aller taxer les citoyens actuellement avec des taxes qui ont tellement fait réagir, la taxe au chat, le foyer, tout ça. Peut-être que je me tire dans le pied avec le commentaire, peut-être que je suis vraiment dans le champ, mais ça va être beaucoup plus apprécié, non, par les citoyens.
Bien, c'est ça. Puis il va tout le temps avoir des mécontents à travers tout ça. Là. Donc, quand tu administres une ville, il faut que tu réfléchisses d'un point de vue plus global. Puis là, évidemment, on ne parle pas de gras. Là. Je ne pense pas qu'il y ait grand gras encore à la Ville de Québec. Ça fait des années avec ce cadre financier-là qu'à chaque année, quand on a l'occasion, il y a des postes qui sont coupés s'ils ne servent plus à rien ou des infrastructures, etc. Donc, ça, c'est un travail qui se fait au quotidien. Les services administratifs de la ville sont soumis à des cibles financières assez sévères là, pour ne pas augmenter leur budget. Donc là, on parle de patinoires qui sont peu utilisées. On parle de trois, on se ramène au budget de la Ville de Québec, 3 petits millions de dollars en économie là, pour ramasser la neige sur une plus longue période de temps. C'est là qu'on va aller chercher ces économies-là qui permettent de ne pas augmenter de manière plus drastique les taxes municipales. Puis je pense que M. Marchand, le pari qu'il fait, c'est que les gens en ce moment, ce dont ils ont besoin, c'est de payer moins de taxes municipales parce que la vie coûte plus cher aujourd'hui.
Tu as entièrement raison. Et puis je pense que ce pari-là va rapporter pour la majorité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alicia Despins, on te reparle mercredi dans 2 semaines à la suite du prochain conseil municipal?
Oui.
Excellent.
Merci, bonne journée.
Hey, merci, un grand merci à toi. Salut, bonne semaine. Alors, c'était Alicia Despins, ancienne conseillère municipale. C'est intéressant de voir quelqu'un de l'intérieur qui dit « Hey, avec ce cadre financier-là, il n'y a pas tant de gras à couper. Hey, oui, je pense que politiquement, ça va être plus gagnant de couper 4 patinoires que d'augmenter les taxes. » J'aime tellement avoir le commentaire de gens qui l'ont vécu sur le terrain.
Ben oui, puis elle se faisait écrire, là. Je veux dire, elle voyait les citoyens puis les soubresauts d'une politique ou d'un règlement qui était finalement passé dans un conseil de ville comme ça. Donc, elle pense qu'il n'y aura pas trop de vagues quant à la coupe de ces patinoires-là. C'est intéressant. C'est beaucoup mieux qu'une taxe, je pense.
Ben vraiment. Je suis pleinement d'accord avec toi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Frédéric qui écrit, bon, de toute façon, ils ont juste arrêté de sortir gratter l'asphalte. On fait...
C'est un point qui se vaut, tu sais.
Exactement.
Mais ça serait fun qu'ils grattent la neige, par contre.
C'est ça. Merci, Fred, pour ton commentaire. Pascal CV, c'est un bonheur de faire de la radio avec toi. On
c'est
fait
partagé.
Ça demain?
Oui, c'est partagé.
Oubliez pas le retour de Gravel. 16h15, Bruno Marchand en onde avec Denis Gravel. Donc, prenez le 418-971-1021. En note, vous allez pouvoir poser vos questions et réagir. C'est la gang de Denis qui s'en vient immédiatement. Nous, on se parle demain à midi. Salut, la gang!